Il est 6h03, bon réveil à toutes et à tous. Ravi de démarrer la journée avec Perrine et de vous accueillir. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent sur les locales de BFM. Un vendredi matin difficile sur les routes, prélude sans doute d'un week-end encore plus compliqué, car après la neige, hier le froid a rendu les routes verglaçantes. 75 départements du nord, de l'est et du centre sont ce matin en alerte.
À Rennes, les enseignants d'une maternelle en grève en soutien au directeur de l'école, menacé de mort par les parents d'une élève. Ils refusaient qu'un homme enseigne à leur fille et voulait la faire changer de classe.
Contre l'avis du gouvernement, les députés ont voté hier pour supprimer la TVA sur les produits de première nécessité et pour bloquer les prix. La mesure a été approuvée, oui, mais sera-t-elle appliquée? Rien n'est garanti.
Et puis à 6h10, deux minutes pour comprendre ce matin l'origine des marches blanches à la veille d'un grand rassemblement prévu à Marseille en mémoire de Mehdi Kessassi. On s'interrogera sur l'origine de cette expression qui est plutôt récente d'ailleurs.
Prudence donc ce matin, Perrine, si vous prenez la route pour aller au travail, si vous prenez la voiture après les chutes de neige hier, le froid cette nuit a rendu les chaussées particulièrement glissantes dans de nombreux départements du nord, du centre et de l'est du pays, parfois de vraies patinoires.
Ouais, et hier soir en Normandie, il y a eu de très lourdes chutes de neige, notamment, regardez ces images, dans l'Orne, jusque tard encore hier soir, plusieurs centimètres de couches de neige. Les services de secours sont mobilisés, appellent à la plus grande prudence, car dans ces conditions, chaque freinage peut devenir un piège. Kevin Drouin et Philippe, Simon Pérez de Souza et Antoine Fernandez.
C'est la crainte des automobilistes par temps de neige. Des routes recouvertes qui cachent parfois une couche de verglas. Dans l'Orne, avec les averses de neige hier soir encore, la route est difficilement praticable. Les véhicules sont immobilisés dans l'attente du salage. Jean-Yves est agent d'entretien des routes.
Ouais Franck, vous continuez la direction de P1, direction Chaumont, d'accord ?
Il sait que la nuit risque d'être longue.
Au moins jusqu'à 8h. J'avais un appel avec un collègue du centre de l'Aigle qui me renvoie une troisième saleuse en renfort pour rendre avec la route impeccable.
Les premières chutes de neige en pleine, aussi dans le Doubs. Là encore, il valait mieux être équipé hier pour circuler. Le département est concerné par la loi montagne. En principe donc, tous les véhicules doivent être équipés de pneus hiver depuis le 1er novembre. Mais les retardataires ont saturé le carnet de rendez-vous de ce garage. Prochain créneau.
Eh ben là, on est au 2 décembre. Beaucoup nous demandent si là, aujourd'hui, on pourrait mettre leurs pneus dans l'urgence, mais malheureusement, comme je disais, on peut pas, on est déjà overbooké.
Les mécaniciens montent les pneus hiver à la chaîne, car en cas de contrôle ou d'accident...
Déjà, d'une, l'assurance peut refuser de prendre en charge les réparations, et la gendarmerie, voilà, si elle arrive sur place et qu'elle voit que vous avez 4 pneus étés... Elle peut vous verbaliser, effectivement.
D'autres chutes de neige sont attendues à très basse altitude toute la journée sur quasiment tout le territoire.
Voilà, la situation va rester compliquée. Apogée de ce pic de froid demain et week-end très difficile qui s'annonce. Kevin, c'est ce qu'a dit Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qui a lancé une mise en garde.
Oui, en effet, il a dit que les services de Météo France surveillaient particulièrement la transition entre la journée de samedi et de dimanche avec l'entrée d'une perturbation sur l'ouest du pays. On aura l'occasion de refaire un point plus loin, mais on craint de nouveau de la neige, mais aussi et surtout des pluies verglaçantes. Et on le sait, les pluies verglaçantes, c'est le danger numéro un sur route. Pire encore que la neige, des axes qui peuvent se transformer en patinoires. On fera un point détaillé tout à l'heure.
Un point détaillé, puis on continuera évidemment avec nos équipes sur le terrain de suivre cette situation ce matin. Venons-en à cette grève aujourd'hui à Rennes. Les enseignants d'une école maternelle sont en grève en soutien avec l'un de leurs collègues menacé de mort par les parents d'une élève.
Cette famille refuse qu'un homme enseigne à leur fille et voulait la faire changer de classe. L'instituteur visé, également directeur de l'école, est lui en arrêt maladie depuis plus d'un mois. Théo Bassilana, Thomas Hérigaud, Romain Etchouin et Milan Argelas.
J'ai tendance à faire des pochoirs, à faire des trucs, j'ai proposé mes services.
Dès qu'il a appris les faits, Laurent s'est mobilisé pour soutenir l'enseignant et directeur d'école.
Ça m'a fait peur et ça m'a choqué, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'agir. Faire en sorte que ça ne se reproduise plus et faire au mieux.
Le 10 octobre dernier, un père de famille demande que sa fille scolarisée en maternelle ne soit plus encadrée par un enseignant masculin, mais par une femme. Aucun motif religieux, mais des raisons personnelles sont invoquées. Selon nos informations, il refuse notamment qu'un homme accompagne sa fille aux toilettes. Demande refusée, le père de famille profère ensuite des menaces de mort à l'encontre du directeur, qui est aujourd'hui en arrêt maladie.
C'est triste pour lui. Franchement, il mérite pas ça.
Je vois pas pourquoi on devrait choisir le sexe de l'enseignant. C'est improbable.
J'espère qu'on sera nombreux pour soutenir notre directeur.
Enseignants, représentants syndicaux et parents d'élèves se rassembleront à 9h. L'équipe éducative appelle de son côté à faire grève dans les écoles du secteur et demande que l'enfant soit scolarisé dans un autre établissement.
Les parents n'ont pas à dire « je veux ci, je veux ça, je veux pas ci ». Et puis demain, dans tel ou tel collège, « moi je veux pas telle partie du programme, d'histoire ou de je ne sais quoi, parce que je pense ci, je pense ça ». Ça, il n'y a pas d'école à la carte.
Le directeur et le rectorat de Rennes ont déposé plainte. Le père de famille a été reçu hier soir par la direction académique.
À l'Assemblée, ce nouveau revers pour le gouvernement, les députés ont approuvé hier la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité assortie d'un blocage des prix contre l'avis de Matignon.
Oui, et regardez, sur les produits du quotidien, ce que ça donne, produits qui bénéficient déjà d'une TVA à 5,5, voilà ce que cela pourrait donner. 6 centimes de TVA en moins sur une baguette de pain à 1,10€, 11 centimes sur un bidon d'un litre d'huile de tournesol vendu en moyenne 2,20€, et puis pour un poulet entier, un kilo de poulet vendu 6,50€, ça vous fait économiser 34 centimes d'euros.
Mesure défendue par la France Insoumise qui a donné lieu à de vifs échanges dans l'hémicycle avant d'être adoptée de justesse. Sauf que vous disiez ce que cela pourrait donner, parce qu'en réalité, dans les faits, elle a très peu de chances de voir le jour. Explication Hortense Gérard et Mathis Menu.
Toute la soirée, l'hémicycle a vu s'affronter LFI et le RN. Le point de discorde, le blocage des prix en supermarché.
Vous allez laisser les multinationales de la grande distribution faire exploser leurs prix et simplement accroître leurs marges.
Simplement, c'est illégal. Nous ne sommes pas dans un régime soviétique et le gel contre les prix est illégal.
C'est finalement l'amendement insoumis qui est adopté de justesse.
Pour 70 contre 62, l'Assemblée nationale a adopté.
Des prix bloqués donc, mais surtout, plus de TVA sur les produits de première nécessité. Une déroute pour le gouvernement qui met en garde, ce n'est pas applicable.
Vous ouvrez une porte, mais tant que vous n'avez pas défini la liste des produits, je ne suis pas en capacité de mettre en œuvre ce décret.
LFI revendique malgré tout une avancée pour le pouvoir d'achat. Les consommateurs, eux, ont déjà une idée bien précise des produits dont ils aimeraient voir le prix baisser.
Principalement, le premier qui me vient à l'esprit pour moi, c'est la nourriture, clairement.
Les pâtes, le riz, les pommes de terre.
C'est ce que la plupart utilisent tous les jours, faut au quotidien. Donc c'est une bonne chose s'ils baissent la TVA sur ça.
Rien ne garantit pourtant que la mesure soit appliquée, car la partie recette du projet de loi de finances risque fortement d'être rejetée.
On partira peut-être dans des ordonnances ou une loi spéciale qui consiste à reprendre les dépenses de l'année précédente pour au moins un temps. Donc, tout ça pour ça.
Les députés ont jusqu'à dimanche minuit pour débattre des recettes du budget.
Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi, alors qu'une marche blanche aura lieu demain, les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont tenté hier de défendre leur bilan à Marseille, parlant d'une bataille très très dure. Ce sont leurs mots contre le narco-banditisme.
Gérald Darmanin et Laurent Nunez, qui dans un entretien à nos confrères de la Provence, donnent ce chiffre édifiant, 5 à 6 milliards d'euros d'argent liquide. Voilà ce que génère chaque année le narco-banditisme en France. La menace du narcotrafic est aujourd'hui au moins équivalente à celle du terrorisme en France, a estimé le garde des Sceaux. De son côté, Laurent Nunez, lui, s'est engagé à revenir tous les mois à Marseille. De nouvelles frappes russes ont fait 5 morts la nuit dernière dans la ville ukrainienne de Zaporijja. Des attaques qui se sont intensifiées ces dernières nuits, au moment même où les États-Unis présentent un plan de paix à l'Ukraine, une feuille de route que Washington a négociée avec Moscou et qui prévoit notamment de céder plusieurs régions occupées à la Russie.
Sans rejeter formellement ce plan, Volodymyr Zelensky a réclamé de nouveau une paix digne. Écoutez-le.
Depuis les premiers jours de la guerre, nous avons adopté une position extrêmement simple. L'Ukraine a besoin de paix. Et une paix réelle, une paix qui ne sera pas rompue par une troisième invasion, une paix digne, afin que les conditions respectent notre indépendance, notre souveraineté et la dignité du peuple ukrainien. Et nous devons garantir ces conditions.
Et les Européens ont pour leur part vivement critiqué ce plan pour Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Cela ressemble, je le cite, à une capitulation pour l'Ukraine. Ce qui nous amène aux suites de cette polémique après les propos avant-hier devant les maires du chef d'état-major des armées pour qui la France doit se préparer à la guerre et accepter de perdre ses enfants, c'est ce qu'il avait dit.
Des propos qui avaient choqué et qui avaient suscité beaucoup de critiques, notamment de la part de plusieurs responsables politiques. La ministre des Armées, hier, a défendu le chef d'état-major pleinement légitime, selon Catherine Vautrin, à s'exprimer sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le pays.
Et qu'en pensent les Français Français sont-ils prêts à se sacrifier, à sacrifier leurs enfants pour défendre le pays? La question a été posée hier au cours du forum BFM TV. Réaction rassemblée par Julien Doucet et Mathis Menu.
Lorsqu'on vous pose la question,
qui a été choqué par ces propos-là?
De nombreuses voix s'élèvent pour s'offusquer des déclarations du chef d'état-major des armées.
Pourquoi choquer Steve?
Parce que j'ai des enfants, tout simplement. Pour moi, c'est un choc dans le sens où je pense qu'on n'est pas prêt. Enfin, faut l'avoir vécu en fait, de perdre des gens autour de soi. Et je peux vous garantir que je l'ai vécu. C'est pas facile tous les jours. Alors
que la polémique enflamme le débat public, certains dénoncent une volonté d'inquiéter la population.
Au moment où monsieur, notre président de la République, Emmanuel Macron, est le plus bas dans ses sondages, qu'est-ce qu'il utilise encore? La peur. Nous sommes en guerre.
Et en plus de tout, deux jours après, on nous parle d'un kit de survie dans lequel il y a quoi? Des petits pois, une bouteille? Mais c'est ridicule!
Difficile d'accorder la priorité à la menace russe, alors que la France connaît également de nombreux problèmes intérieurs.
Est-ce qu'il est capable d'entendre qu'on aimerait qu'il ait ce même ton envers, par exemple, les narcotrafiquants à Marseille? Quand je dis Marseille, ça peut être Grenoble, Strasbourg, partout. Est-ce qu'il entend quand même qu'on aimerait que ce ton martial serve aussi pour protéger l'intérieur des frontières, pas seulement que l'extérieur?
Un forum qui reflète à nouveau l'état d'esprit divisé des Français. Selon un sondage IFOP de septembre dernier, 53% s'affichent contre l'envoi de troupes au sol.
Si vous pensez qu'il fait froid chez vous ce matin, c'est pas une impression, je vous le confirme, parce que les températures sont proches des 0 degrés, on a encore perdu par rapport à hier. Dites-vous qu'il y a des endroits où il fait encore plus froid.
Oui, on va vous emmener ce matin à 2300 mètres d'altitude.
Le pauvre!
On est dans la plus haute station, enfin Thomas est dans la plus haute station d'Europe, Val Thorens. Tiens, regardez d'ailleurs, quand Thomas est arrivé hier soir, regardez le petit message qu'il nous a envoyé. Il nous a envoyé une petite capture d'écran. Voilà, il faisait moins 14 hier. Avec un petit smiley. Moins 14 hier soir, Thomas, quand vous êtes arrivé à Val Thorens. Plus haute station d'Europe, il fait combien ce matin?
Il fait combien ce matin? Il fait un petit peu plus chaud, allez, moins 12 degrés, c'est plutôt agréable. Non, il y a un petit vent quand même ce matin, on sent qu'au niveau des mains, eh bien, ça commence un petit peu à faire froid. Et puis, on a de la neige, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on le dit, Val Thorens ouvre dès demain pour les skieurs. Et on était un petit peu inquiets quand même ces dernières semaines, parce que je vous rappelle qu'on a eu un temps assez doux, avec des températures plutôt proches du printemps ou de l'été. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bah, c'est vous justement qui êtes en charge de tout le domaine skiable. Il est prêt ce domaine skiable dès demain?
Oui, alors aujourd'hui on est en train de fignoler aux petits oignons les pistes de ski pour accueillir les clients demain matin.
Vous avez commencé quand à mettre en forme toutes ces pistes?
Alors c'est un cycle qui se fait toute l'année, mais plus particulièrement en début de semaine où on a commencé la production de neige de culture et puis on a eu la chance d'avoir un temps qui nous a aidé pour parfaire ce domaine skiable.
La neige était plutôt bienvenue, non?
Oui, effectivement, mais depuis une dizaine d'années, on va faire une très très belle ouverture.
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, d'ici demain?
Alors aujourd'hui, les pisteurs secouristes vont jalonner les pistes pour les sécuriser, regarder un petit peu le manteau neigeux, comment il évolue avec la météo d'aujourd'hui. Et puis demain matin, c'est le grand jour.
Merci beaucoup, Val Thorens. Élu tout de même la meilleure station du monde pour la 10e fois en 12 ans, c'est quand même pas rien. Nous sommes ce matin allés à 2300 mètres d'altitude. On peut monter quand même jusqu'à 3002, mais là, il fait pas moins 12 degrés. Hein. Il fait encore beaucoup plus froid. Pour le ski, alors, j'ai un certificat médical, donc m'en voulez pas, mais on restera à terre.
Non, tu n'avais qu'un seul ski, Thomas. On est d'accord, tu comptais bien en récupérer un deuxième si tu voulais descendre une piste. Rassure-nous.
Mais c'est un snowboard, enfin. Non, c'est pas ça.
Il a pas compris une chose, Thomas, c'est qu'en fait, les skis, c'est pas des bâtons de marche, hein. Il faut les mettre au pied. Donc, on compte bien sur vous pour tester la glisse. Ça nous promet de belles séquences parce qu'il est un petit peu maladroit, notre Thomas Herman. On verra ça, on vous retrouvera tout à l'heure, Thomas. Avec Vincent Serron, il n'y a pas, évidemment, qu'en montagne où il neige, on a des conditions hivernales. Il y a 75 départements, on le rappelle ce matin, qui sont en vigilance jaune. Ça glisse énormément sur les routes et on va faire faire un point sur les conditions de circulation tout au long de la matinée avec vous, Kevin.
Oui, en effet. Alors, globalement, ça se passe bien pour vous sur la plupart des territoires, mais on a quelques points à surveiller. L'intérieur de la Bretagne, la Normandie. Vous avez également aussi dans le Nord, regardez, cet axe qui est orange, c'est l'autoroute A26 qui vous permet de rejoindre la région de Calais depuis Arras. C'est orange, ça veut dire que les conditions de circulation sont délicates. Et on va quand même aller prendre des nouvelles, vous savez, de la région de Pontarlier hier, qui a été quand même fortement affectée par les chutes de neige. Regardez ce que ça donne sur une caméra de vidéosurveillance quasiment en direct. Ça freine un peu quand même, puisqu'on a une voie de circulation encore dans la difficulté. Je voulais terminer aussi avec ces webcams en direct des différents cols alsaciens. Ça roule, mais pas partout. Beaucoup de verglas. La prudence s'impose. Incroyable. Du côté de Sainte-Marie-aux-Mines notamment.
Merci Kevin. Donc bon courage si vous prenez la route ce matin, la voiture. Pensez à ça, tiens, regardez, migratoire. C'est toujours utile, ça.
Oui, mais il y a le spray aussi qui est efficace.
Mais il faut se lever un peu plus tôt, il faut y penser. Ouais. Parce qu'on se retrouve parfois bloqué. Allez, vous restez avec nous sur BFM TV dans moins de deux minutes. On va vous expliquer l'origine des marches blanches. Deux minutes pour comprendre les marches blanches à la veille d'un grand rassemblement prévu à Marseille en mémoire de Mehdi Kessassi. On s'interrogera sur l'origine de cette expression marche blanche, plutôt récente d'ailleurs, vous le verrez.
Et puis l'écho, Emmanuel, qui a dit que les Français étaient radins pour
mais
boire?
Mais oui, il fait froid dehors, mais il fait chaud dans le cœur des Français. Vous allez voir, ils sont généreux quand il s'agit de donner un pourboire.
On se retrouve dans moins de deux minutes, à tout de suite. Merci de passer la matinée avec BFM Première. Deux minutes pour comprendre l'origine des marches blanches. Demain aura lieu à Marseille une marche blanche en mémoire de Mehdi Kessassi qui a été assassiné il y a une semaine. Ce type de rassemblement semble avoir toujours existé. Et pourtant non, c'est assez récent en fait, Dominique.
Oui, l'an prochain, en 2026, nous allons commémorer les 30 ans de la première marche blanche. Première marche blanche à Bruxelles, c'était en 1996, le 20 octobre. Avant cela, les marches blanches n'existaient pas. Cette première marche à l'époque est une réaction à un traumatisme qui a touché la Belgique, l'affaire Dutroux, évidemment. L'horreur, les Belges découvrent Marc Dutroux, ce criminel qui a tué, violé, séquestré six petites filles. Et 350 000 Belges descendent ce jour-là dans la rue. Un événement fondateur, baptisé donc Marche Blanche. Et les familles des victimes ont posé à l'époque des conditions pour participer à cette marche. Regardez, le blanc sera notre couleur, le symbole de nos enfants abîmés et assassinés, de l'innocence trahie. Le blanc, d'où évidemment la couleur Marche Blanche. Et puis, joignez-nous à vous, avec une fleur ou un ballon, ça aussi, en signe de reconnaissance. Nous souhaitons que cette marche soit une démonstration de paix et de solidarité.
Et ça va devenir un modèle. Aujourd'hui encore, les marches blanches respectent un certain nombre de codes.
Oui, certains codes, comme le fait de porter du blanc, on vient de le dire, apporter des fleurs ou un lâcher de ballon, par exemple, marcher en silence aussi, aucun slogan et aucune musique, et puis surtout, aucune récupération politique. En France, le phénomène s'est installé dans les années 2000, et depuis chaque week-end, il y a des marches blanches en France. Parmi les plus marquantes, en 2013, on pense à la marche blanche qui avait réuni des milliers de personnes, après la mort de la petite Fiona, 5 ans, c'était à Clermont-Ferrand, maltraitée par ses parents, et puis la dernière, l'une des plus marquante, cette marche en 2022 en hommage à Lola, en mémoire de Lola à Paris. C'est devenu presque un rituel de deuil avec une sorte de quasi-statut juridique. La marche blanche n'est pas une manifestation au sens légal, donc un préfet peut interdire la marche blanche, mais elle n'a pas besoin d'être déclarée en préfecture, à condition qu'elle soit silencieuse et, on le répète, apolitique.
Merci Dominique. Vous saviez que c'était l'affaire Dutroux qui avait lancé ce rituel ? Non ? Étonnant ?
Si.
Ah, vous le saviez ? 30 ans, effectivement, d'existence, et on suivra évidemment cette marche blanche demain sur BFM TV en hommage à Mehdi Kessassi. L'écho avec Emmanuel.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Votre rendez-vous avec Evans, votre partenaire location longue durée. Avancez vers une meilleure mobilité avec Evans.
Face au froid, Emmanuel va donc nous réchauffer les cœurs ce matin. Non, nous ne sommes pas radins, nous sommes généreux en pourboire.
Effectivement, les Français qui laissent un pourboire au restaurant, au bar ou dans un autre commerce. Et 8 sur 10 sont dans ce cas, ce qui est quand même beaucoup, donne en moyenne 3,10 €. C'est ce que nous dit une étude LIS CSA. Les Français qui n'en laissent pas ou peu le font généralement car ils estiment que le service est déjà inclus dans le prix. Vous donnez, vous ?
Oui.
Tout le temps ?
Oui. Mais encore plus, moi, depuis que c'est le terminal à carte bleue qui suggère...
Eh bien, on va y arriver.
Carrément.
Alors, 8 sur 10, c'est beaucoup. Il ne reste pas moins que c'est une habitude qui est plus répandue quand même chez les plus de 65 ans, chez les plus âgés que chez les jeunes. Alors vous me direz, c'est peut-être une question de moyens aussi. Alors 3,10€, c'est 10% de plus qu'en 2020. Les petits malins remarqueront que c'est une progression qui est moins forte que celle de l'inflation quand même. Mais bon, 6 Français sur 10 donnent moins de 2€, mais 3 sur 10 donnent entre 3 et 5€, qui est vraiment la norme.
Et alors, avec qui les Français, avec qui sommes-nous le plus généreux?
Alors, de très loin, c'est les serveurs dans les restaurants et dans les bars. Chez certains commerçants aussi, on en donne. Et là, la vedette incontestée, c'est le coiffeur. On laisse souvent une petite pièce ou un petit billet chez le coiffeur, si, pour celle ou celui qui vous a fait le shampoing. Voilà. Les Français aiment bien aussi laisser une petite pièce au livreur. Amazon, livreur de colis en général, ou livreur de repas, hein, votre pizza, votre Uber Eats, et puis bien sûr aux chauffeurs de taxi qui sont quand même un peu les chauffeurs de taxi les perdants de la généralisation du paiement par carte bleue. 30% seulement des clients laissent quelque chose à leur chauffeur de taxi ou à leur VTC.
Et rappelons qu'il n'est pas question pour les Français de taxer les pourboires. Hein.
Pour Alors ça, c'est pas touche.
Pas touche
au pourboire, ça les Français, très clairement, 8 sur 10 disent que ce serait injuste, et ça tombe bien puisque les députés ont voté de toute façon la prolongation jusqu'en 2028 de la défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire. Il faut dire que par carte bancaire, les Français sont les plus généreux d'Europe, derrière les Suisses.
C'est plus facile.
Merci Emmanuel. Attention, ce matin, en sortant de chez vous, on plonge dans l'hiver. Les températures ont encore chuté et les routes sont très glissantes. On fera le point dans un instant avec Kevin et avec nos reporters en région.
Vous restez avec nous. Très bon réveil sur BFM TV.
6h30, très bon réveil. Merci de passer ce début de journée avec BFM Première. On est ravis avec Dominique de vous accueillir. La France sous un manteau hivernal, les températures plongent encore. La neige a laissé place à des plaques de verglas. La circulation est difficile sur de nombreuses routes et ce sera pire ce week-end.
SOS Médecins dénonce une expédition punitive à Tourcoing. Un généraliste violemment agressé après avoir demandé à une patiente de calmer ses enfants. Quelques heures plus tard, le mari est revenu pour le frapper.
On vous parlera aussi de cette mesure radicale à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Les personnes ivres sur la voie publique paieront désormais double l'amende et les frais de déplacement des policiers.
Et puis à 6h40, la politique avec Anne, après les propos du chef d'état-major des armées sur la menace d'une possible guerre, la tentation d'un retour du service militaire refait surface. C'est quoi alors ?
On entre encore un peu plus dans l'hiver. Ce matin, les températures continuent de chuter. Il y a 27 départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est qui sont en alerte jaune pour grand froid. Et c'est presque tout le pays qui est en vigilance neige et verglas.
Oui, ce n'est que le début. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, prévient que ce sera difficile sur les routes alors que de nouvelles chutes de neige et des pluies verglaçantes sont attendues. L'épisode de froid atteindra demain jusqu'à moins 10 degrés en plaine dans le Nord-Est et même jusqu'à moins 20 dans le Jura. On va partir en Haute-Loire.
Ouais, parce que les routes...
C'est chez Anne.
Voilà.
Regardez comme il fait froid chez vous. On va retrouver Romain Etouin qui a froid aussi.
Dans la Haute-Loire en ce moment.
Moins 4, les déneigeuses à Romain sont entrées en action, ça y est.
Eh bien, tout à fait. Les déneigeuses, l'ensemble des 330 agents du département de Haute-Loire sont sur le pont pour ce premier épisode neigeux. Vous le voyez, ça y est, les déneigeuses, elles sont en place. On est d'ailleurs avec Philippe et Bertrand qui travaillaient depuis 4h30 déjà. Alors, il y a beaucoup de boulot ce matin.
Oui, la route était pas mal enneigée. Et puis, on fait du salage avec de la saumure. Et on déneige après avec l'étrave. Et on a un aileron sur le côté pour pousser la neige, voilà.
Alors justement, on a vu que le réseau secondaire était assez neigeux. Il y a beaucoup de neige, hein. En tout cas quand on monte sur les hauteurs, il y a vraiment beaucoup de salage à faire.
Oui, il y a pas mal de salage, mais il y a un petit peu de vent, donc après ça va.
Vous le voyez, en tout cas, ils vont avoir pas mal de boulot. On va d'ailleurs les laisser remonter dans leur déneigeuse pour continuer le travail. Il faut savoir qu'ici, les températures sont assez glaciales. Il fait actuellement moins 3 degrés, ressenti moins 6. L'ensemble du département est placé en vigilance grand froid avec un risque accru d'hypothermie. Alors évidemment, inutile de vous le préciser, mais il faut sortir bien couvert.
Merci, merci beaucoup Romain et Tuin. Vous voyez, vous êtes mieux à Paris, Anne. Un peu plus chaud à Paris.
On est bien là-bas, surtout quand il neige, c'est magnifique.
En tout cas, ces températures, elles testent notre résistance au froid. Et vous allez voir, on n'est pas tous égaux en la matière. William Gay et Blandine Dalena.
5 degrés dehors, Karine a tout prévu. Elle porte une multitude de couches de vêtements.
Une petite veste, une écharpe, une petite robe très légère, mais en dessous de laquelle il y a également un t-shirt pour tenir plus chaud.
Car elle est particulièrement frileuse.
Je suis plus habillée que la moyenne des personnes et dès qu'il fait en dessous de 26 degrés, je mets une petite veste l'été, ce qui amuse beaucoup mon entourage.
Franck, lui, préfère miser sur des vêtements techniques, conçus pour garder la chaleur.
Je sais que j'ai un corps qui se refroidit assez rapidement, parce que je ne suis pas très épais. Et donc, par rapport à ça, l'idée, c'est toujours d'anticiper au mieux.
Et puis, il y a Philippe, qui court en short.
Non, je ne suis pas du tout frileux, à part juste les extrémités. J'aurais dû prendre les gants, mais concrètement, ça va.
Alors, comment expliquer une telle différence entre chacun ?
Il y a des pathologies qui peuvent bien sûr jouer, que ce soit le manque de fer chez la femme, par exemple, que ce soit la thyroïde qui peut fonctionner plus ou moins, que ce soit la masse musculaire. Il est certain que plus on fait d'exercice physique, plus la masse musculaire sera développée. Et la frilosité sera sans doute moindre.
La masse musculaire diminue avec l'âge, ce qui explique aussi pourquoi les personnes âgées sont parfois plus frileuses.
Les députés doivent voter d'ici demain midi la partie recette du budget qui, sans grand suspense, devrait être rejetée. Et ce matin, on voulait vous parler avec Perrine d'une taxe qui nous a interpellé, la taxe sur les yachts.
L'Assemblée a refusé de la supprimer. Alors vous avez bien jusqu'ici rien d'étonnant, sauf qu'on découvre que son rendement est dérisoire. 60 000 euros en 2024, elle devait en rapporter 10 millions. Alors comment expliquer un tel écart ? Benoît Ruiz, Antoine Forestier, Julie Rosaire avec Blandine Dalena.
Dans le port d'Antibes, nous remarquons des yachts avec le drapeau de Malte, des îles Caïmans, des paradis fiscaux donc. Mais aucun drapeau français à l'horizon.
Il n'y en a pas beaucoup, non. C'est que des bateaux étrangers. Hein.
Je pense qu'ils ont dû se domicilier quelque part autre. Ça veut dire que peut-être qu'il y a moins de milliardaires en France, je ne sais pas.
Depuis 2018, les yachts de plus de 30 mètres sous pavillon français sont soumis à une taxe. Ce qui expliquerait pourquoi il ne reste aujourd'hui pas plus de 5 bateaux immatriculés en France.
En fait, il faut bien comprendre une chose. Quand vous taxez trop fort la richesse, qu'est-ce qui se passe ? Vous la faites fuir.
Cette taxe devait rapporter 10 millions d'euros par an. Mais l'année dernière, le gouvernement n'a récupéré que 60 000 euros. Un amendement a donc été présenté mercredi pour la supprimer, mais le texte a été rejeté.
On demande à tous les Français de faire des efforts. Et ceux qui ont les moyens d'avoir un yacht à leur disposition, on leur laisserait disposer de leur yacht sans mettre en place une fiscalité à l'encontre des plus riches. Ça, c'est pas possible. Donc c'était pour nous un principe de justice élémentaire.
Une courte majorité de députés a rejeté le texte avec 74 voix contre 67.
La scène est sidérante, mais malheureusement, c'est loin d'être un cas isolé. Dans le Nord, à Tourcoing, un médecin généraliste a été victime d'une expédition punitive, pour reprendre les mots des SOS médecins.
Il avait demandé à une patiente de calmer ses enfants. Quelques heures plus tard, le mari est revenu, s'est jeté sur lui avant de la frapper. L'agression de trop pour SOS médecins qui a fermé ses antennes de Roubaix, Tourcoing et Lille jusqu'à demain matin. Adrien Spiteri.
À l'entrée de ce centre médical SOS Médecins de Tourcoing, ce message est affiché. L'établissement restera fermé jusqu'à demain matin. Les professionnels de santé ont décidé de faire grève après l'agression d'un de leurs collègues, des faits qui indignent cette habitante.
Ils sont là pour nous soigner et puis ils sont tapés, c'est honteux.
Mardi matin, une femme se trouve dans cette salle d'attente avec deux enfants. L'un d'eux est bruyant, alors un médecin lui fait savoir à plusieurs reprises. Après avoir été reçue en consultation, cette femme revient dans l'après-midi accompagnée d'un homme qui pousse, puis frappe le docteur.
C'est un comportement totalement invraisemblable, inacceptable et que je condamne fermement. C'est un jeune médecin hein, qui en donne, qui en veut, qui se démène, il travaille et se voit récompensé par ça.
La victime a déposé plainte, l'agresseur présumé a lui été placé en garde à vue. Un acte qui n'étonne pas cette télésecrétaire.
J'ai envie de dire que malheureusement, c'est quasiment notre quotidien. Il n'y a plus de dialogue correct avec les patients.
En France, les actes de violence envers les médecins ont augmenté de 26% entre 2023 et 2024.
Des images impressionnantes qu'on voulait avec Perrine vous montrer ce matin. Regardez ces images de la COP 30 à Belém au Brésil. Un incendie a touché une partie du site. Les flammes se sont rapidement propagées sur un stand. Une partie du toit a même brûlé dans ce secteur et des milliers de participants ont dû être évacués.
C'est pour rappeler que la planète brûle, effectivement. Enfin, en tout cas, le feu a été maîtrisé, mais il a interrompu les débats pendant plusieurs heures. Et le problème, c'est que les négociations, elles doivent s'achever ce soir. Donc on a pris du retard et ça a des conséquences. La cause, elle reste inconnue. Le ministre brésilien évoque peut-être un court-circuit en téléphone en charge. En tout cas, il y a une enquête en cours. La double dose pour les personnes... Ouais, c'est pardon pour le jeu de mots,
il est un peu maladroit.
Pour les personnes ivres sur la voie publique, on vous parle ce matin de cette décision qui a été prise à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Le conseil municipal a décidé de facturer aux personnes ivres sur la voie publique le déplacement de la police en plus de l'amende.
Oui, 300 euros au total, une mesure radicale assumée par la mairie et les habitants, eux. Qu'en pensent-ils, Vincent Hénin et Isor de la Gorce?
Facturer l'intervention de la police municipale, l'idée séduit ses habitants.
Je suis tout à fait d'accord, même parce qu'on n'a pas à payer pour les personnes qui boivent.
Qu'on dérange la police municipale et tout, il faut qu'ils assument après ces gens-là.
Si nos impôts peuvent aller à autre chose qu'à payer ça, pourquoi pas?
Concrètement, toute personne arrêtée ivre dans la rue et qui nécessite une prise en charge de la police devra régler 150 euros. Et ce, en plus de la contravention habituelle du même montant.
Le transport, l'utilisation du véhicule, des fois malheureusement le nettoyage du véhicule, donc tout ça a forcément un coût au niveau de la municipalité.
Pour le maire, c'est une décision dissuasive et justifié. Car dans la commune, les interventions pour ce type d'infraction se multiplient. 35 en 2024.
On doit amener l'individu aux urgences à l'hôpital où on attend pour un examen médical et ensuite on l'amène à la gendarmerie. Et ceci prend du temps. Et pendant ce temps-là, les agents ne sont pas sur l'espace public, ce qui est leur mission.
Déjà en place dans certaines villes comme Tourcoing et Bergerac, cette mesure sera appliquée à Marmande dès janvier prochain.
Allez, une petite image à présent de la plus belle femme du monde, de l'univers même. Elle est mexicaine, c'était l'élection de Miss Univers cette nuit en Thaïlande. La voilà, émue évidemment. Mm-hmm. Elle s'appelle Fatima Bosch. Et alors pour la petite anecdote, ça fait quand même sourire, c'est que c'est une belle revanche pour elle, parce que figurez-vous qu'elle était au cœur d'une polémique. En fait, l'animateur du concours l'avait traité d'idiote. Et donc, c'était revenu même jusqu'au lieu du Mexique, où on s'était indigné de ça. Et voilà la revanche.
Ça ne lui empêche pas d'être belle. Donc voilà. Mais des nouvelles aussi de la française, regardez.
Ouais.
Eve Gilles, notre française, qui avait... voilà. Alors elle a été éliminée aux portes du top 12 quand même. Du top 12.
Ouais.
Il y avait au total 130 candidates. Et on s'est pas mal régalé, Perrine, il faut le dire, parce qu'il y avait quelques trucs sympas.
Un petit bonus ce matin. La palme de l'originalité du costume revient à... Attention. On va la voir. Miss Norvège, qui était habillée en saumon. Miss Saumon, bon, visiblement, ça a rencontré un franc succès, puisque je ne sais même pas si elle a été qualifiée.
Puis elle a un petit bonus, juste, on ne va pas se marrer ce matin, on ne va pas rigoler, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de vous montrer cette image. Il nous a quand même fait rire. Regardez Miss Jamaica.
Ça vous a fait rire, mais franchement,
c'était il y a quelques jours. Alors, elle a été à l'hôpital, elle a été évacuée sur une tire. On vous montre ça. Attends, regardez, on la revoit, voilà. Et hop,
mais non,
on la voit parce que tout va bien. Parce que tout va bien pour elle, aucune fracture. Et donc, ils vont être en pleine forme, Miss Jamaïque, et pouvoir tenter la chance.
Enfin, en pleine forme, bon.
La chance l'année prochaine. Tout de suite, vos chroniques santé, culture et politique sur BFM.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque.
C'est bon. Aurèle, vous n'avez pas fait une petite entrée de Miss, non?
Ah, pour une fois, je suis arrivé à pas chuter. Mais de toute façon, ça ne se serait pas vu.
Avec
heureusement, il y avait
le costume saumon. C'est vrai que ça vous irait très bien, ce petit costume saumon. Bon, on va parler de ce matin avec vous. Pardon, je chasse cette vision. Allez. D'un médicament anti-obésité sous forme de comprimé. Est-ce qu'il serait aussi efficace, aussi sûr que les ingestions type Ozempic, selon une nouvelle étude? Aurèle, première question, comment ça marche?
Bah, c'est important de comprendre qu'en fait, ce médicament, ce comprimé, c'est juste un analogue de GLP-1. GLP-1, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone naturelle. Cette hormone, elle va être produite tout simplement lorsque vous allez manger. Donc, première chose, ça va jouer sur le cerveau et ça va permettre de faire un sentiment de satiété. Seconde chose, eh bien, le sucre qui est dans le sang va rentrer dans les cellules parce que ça va participer à la sécrétion d'insuline. Et troisième chose, eh bien, ça va jouer sur la vidange gastrique. Vous allez comprendre facilement en quoi ça a une importance. Voici mon estomac. Oui, c'est un entonnoir.
J'ai peur parce que quand vous parlez de vidange gastrique et que vous sortez
l'entonnoir... Non, mais j'ai pris un entonnoir. Donc voilà, mon estomac, c'est un entonnoir. Vous imaginez, ici, vous avez eh bien, la suite, hein, les intestins. Donc, je vais vous montrer en posant sur le bureau ce qu'on va faire, enfin ce qui se passe lorsque vous mangez naturellement. Voilà, ici votre bol alimentaire, il est juste là. Hop, vous, ça rentre dans l'estomac. Et puis, tac, ça coule à une certaine vitesse, on est d'accord ? Bon, les trois quarts tombent à côté, mais c'est pas le sujet. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe naturellement. Vous imaginez que lorsque vous prenez un analogue de GLP-1, ce qui va se passer, c'est que hop, la vidange gastrique va un peu être ralentie. Et donc, lorsque vous allez manger, bah, votre estomac... il va avoir beaucoup plus de difficultés, voire pas du tout, à vider les aliments. Donc vous allez avoir rapidement un sentiment de satiété. Et donc ça va jouer justement sur le fait que bah, si vous mangez moins, vous allez perdre du poids.
Donc là, on a compris comment ça marchait. Est-ce que ça marche vraiment? Alors, est-ce que c'est efficace?
Ça marche vraiment, puisque c'est important de rappeler que l'analogue de GLP-1, c'est une molécule qu'on utilise déjà. Hein, vous connaissez ça sous le nom d'Ozempic, de Wegovy, de Mounjaro, mais c'est des injectables. Là, c'est la même molécule par la bouche, et donc on a à peu près les mêmes résultats. 15% de perte de poids, ce qui est majeur. Et surtout, il faut savoir que normalement, quand c'est sous forme injectable, eh bien, on a une perte de à peu près 2/3 des patients à cause de l'inconfort que ça peut représenter et des signes. Ici, on espère avoir une meilleure adhérence de la part des patients. Et justement, eh bien, c'est là où c'est révolutionnaire.
Est-ce qu'on peut en prendre juste pour s'affiner, entre guillemets?
Alors, c'est quand même important de se rappeler que c'est un traitement médical et que oui, il fonctionne très bien. Il y a des effets secondaires qui sont principalement digestifs, mais lorsque vous allez arrêter, bah, il y a quand même une bonne partie de votre poids que vous allez récupérer. Et puis, il y a quand même une partie où c'est de la masse musculaire. C'est important d'avoir un suivi et c'est important aussi de se rappeler que les indications, c'est lorsque vous êtes en situation d'obésité avec un IMC supérieur à 35, ou alors en Europe, c'est lorsque vous avez un IMC supérieur à 30 ou un IMC supérieur à 27 avec une comorbidité.
Vidange gastrique, c'est le terme scientifique ?
C'est le terme scientifique et ce sera le mot du jour, la vidange gastrique, pour essayer de le placer aujourd'hui.
On aura appris quelque chose, maintenant. Vidange gastrique.
Voilà. Sans transition aucune, la politique avec la culture évidemment.
Je suis là,
je me perds.
C'est la vidange gastrique.
On va revenir après le cambriolage au musée du Louvre. Hasard du calendrier, un mois après ce très beau livre, Les bijoux des femmes, femmes aux bijoux,
oui. Et regardez à l'intérieur, j'imagine que vous les reconnaissez, voilà, les bijoux de l'impératrice Eugénie
qui ont disparu.
Oui, il y a la broche, il y a le diadème, la couronne qui n'a pas été volée mais qui a été abîmée lors du cambriolage. Alors, lorsque ce livre a été écrit, évidemment, le vol n'avait pas encore eu lieu et ça fait tout drôle de lire cette phrase. La couronne de l'impératrice a miraculeusement été épargnée par la vente de 1887. Aussi n'a-t-elle jamais quitté le Louvre. Alors, on va écouter l'auteur de ce livre. Pour lui, ces bijoux étaient ce que la France avait de plus précieux. On l'écoute au micro de Laura Champion.
C'est une perte capitale dans la mesure où il ne nous restait que ces bijoux. C'était les seuls bijoux de la couronne de France. C'était vraiment ce qu'on avait de plus précieux. Les trésors de France, les vestiges du trésor de France étaient exposés dans la galerie d'Apollon. C'était notre trésor national et nous l'avons perdu à ce jour.
Alors, il y a d'autres trésors dans ce livre. En réalité, il y a l'impératrice Eugénie, donc fait partie des 15 femmes mises à l'honneur dans ce livre. Il y a aussi Lady Diana, Maria Callas, Marie-Antoinette ou encore Jackie Kennedy. Et ce qui est intéressant, c'est que leur histoire est racontée à travers leurs bijoux. Les bijoux, par exemple, et c'est le cas avec la reine Elisabeth II, étaient des armes diplomatiques. Écoutez.
Selon le pays qu'elle visitait, selon la visite... qu'elle effectuait, elle portait une broche particulière. Et chaque broche était symbole. Comme la reine ne parlait pas, ne se confiait pas, les chroniqueurs royaux regardaient la broche qu'elle portait au revers de sa veste pour imaginer ce qu'elle pouvait dire.
Voilà, en 1951, par exemple, lors de son premier voyage au Canada, eh bien, elle portait une broche en forme de feuille d'érable. Alors moi, je vous montre quand même, pour finir, mon bijou, le bijou préféré. Mon bijou préféré, c'est ce collier de perles que portait Jackie Kennedy. Alors, ce sont des fausses perles. C'est des perles de verre, donc c'est surtout une valeur historique, symbolique.
C'est votre préféré, celui-là?
C'est mon préféré.
C'est un message à quelques semaines de Noël, peut-être?
Oui, exactement. Exactement. Et donc, juste un petit mot, le livre sort dans une semaine tout pile, le 28 novembre prochain, aux éditions de La Martinière.
Vous portez pas de bijoux, vous, Anne?
Non, mais on va refaire un peu d'histoire.
On va refaire un peu d'histoire avec vous, parce que la polémique ce matin, elle continue autour des propos du chef d'état-major des armées qui estime que la France doit se préparer à perdre ses enfants en cas de guerre. Et Emmanuel Macron pourrait bien relancer l'idée d'un nouveau service militaire.
Voilà, je rajoute, en plus de l'aspect un peu anxiogène des propos du chef d'état-major des armées, la campagne de communication du gouvernement sur le kit d'urgence qui vous a peut-être un peu étonné ou inquiété. Très rapidement, pour poser les bases, oui, l'idée du service militaire est bien relancée dans la tête du chef de l'État. Il devrait d'ailleurs faire des annonces la semaine prochaine, mais non, il n'est pas question pour lui de le rendre obligatoire, donc ne vous attendez pas à voir l'armée venir chercher vos adolescents, vos enfants à la porte de la maison dans les mois qui viennent. Le chef de l'État souhaiterait 10 000 jeunes sous les drapeaux d'ici 2030 sur la base du volontariat et 50 000 à plus long terme. Le problème, c'est qu'il va falloir des militaires pour l'encadrement, des lieux pour l'entraînement, et ça, la France ne les a plus depuis 1996. C'est Jacques Chirac qui a mis fin au service militaire après la guerre froide. Mais vous y êtes favorable à ce retour du service militaire dans votre très grande majorité, à 86% jeunes y compris, donc ceux qui sont concernés par un éventuel service militaire. Volontaire obligatoire, c'est 50-50, la France est partagée en deux.
Qu'en pense la classe politique?
Ben écoutez, la classe politique se partage en trois groupes. L'action, l'opposition, la réflexion, l'action du côté du RN qui veut aller plus vite et plus fort que le chef de l'État. Pour Jordan Bardella, il faut commencer par un service militaire, mais à terme, vous voyez, il faudra qu'il soit obligatoire. À gauche, c'est la position opposée, anxiogène, va-t-en-guerre, inutile. Les insoumis, notamment, n'ont pas de mots assez durs pour qualifier cette possibilité de retour du service militaire. Et puis, vous avez tous les autres partis, et eux, ils sont dans la réserve, dans la réflexion, pour des questions budgétaires. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Les lieux, les formateurs, il va falloir les payer. D'un mot pour vous dire à la fin, que le débat fait rage aussi chez nos voisins européens, notamment les Allemands. Ils veulent aller plus loin que nous. 10%, enfin 10 fois plus de volontaires d'ici 2030, mais vous avez aussi des partis qui disent qu'il ne faut absolument pas y revenir, donc c'est un débat qui est européen désormais.
Emmanuel Macron qui s'est inspiré du service militaire norvégien, où c'est vraiment, il y a des tests d'aptitude qui sont passés et ce sont les meilleurs qui sont pris. Merci Emmanuel, pas du tout. Anne, pourquoi je vous
en prie, Dominique? Avec plaisir.
Vous restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Le journal de 7h, la neige hier, le verglas. Ce matin, 76 départements du nord, du centre et de l'est sont en alerte. Le gouvernement annonce un week-end compliqué. Point complet avec nos équipes sur le terrain.
Et puis à 7h10, la question du jour. Pourquoi les marques cèdent toutes à la tentation du calendrier de l'Avent? Peut-être parce que les Français sont complètement accros.
Il est bientôt 7h, bienvenue à tous. On est ravis avec Perrine de vous accompagner ce vendredi matin. Un vendredi froid et verglaçant sur bon nombre de départements, 75 départements en alerte, prélude d'un week-end qui s'annonce compliqué. Le froid a rendu les routes glissantes. Nous retrouverons Marie Roux dans le Doubs où les flocons tombés hier donnent ce matin du verglas.
À Rennes, les enseignants d'une maternelle en grève en soutien au directeur de l'école, menacé de mort par les parents d'une élève. Ils refusaient qu'un homme enseigne à leur fille et ce n'est pas pour des raisons religieuses.
Contre l'avis du gouvernement, les députés ont voté hier pour supprimer la TVA sur les produits de première nécessité et pour bloquer les prix. La mesure a été approuvée, mais sera-t-elle appliquée? Rien n'est garanti.
À 7h10, la question du jour, pourquoi toutes les marques cèdent-elles à la tentation des calendriers de l'Avent? Il y en a désormais pour tous les goûts, pour tous les âges. Charlotte Méritant est venue avec quelques échantillons ce matin.
« prudence ce matin. Si vous prenez la voiture, si vous prenez la route pour aller au travail, les chaussées sont très glissantes après les chutes de neige hier. Le froid a rendu les routes verglaçantes dans de nombreux départements du nord, de l'est du pays, avec par endroits, Périne, de véritables patinoires.
Ouais, en Normandie, notamment, regardez, jusque tard encore hier soir, cette épaisse couche de neige. Marie Roux, on vous retrouve, vous, dans l'est, dans le Doubs. On vivait avec vous hier matin les premières neiges, qui s'est transformée en verglas. Les routes sont extrêmement glissantes ce matin.
Oui, effectivement, on est dans la configuration la plus dangereuse actuellement, puisque hier, il a neigé jusqu'à 25 cm dans la région. Mais comme cette nuit, eh bien, les températures ont baissé, il va faire entre moins 4, moins 5 degrés. Eh bien, tout ce qui avait fondu ou tout ce qui avait tenu au sol est à geler, à regeler. Alors, pour les automobilistes, il faut être prudent. La plupart que nous croisons avec Simon Pirès roulent au pas. Et puis, sur la route, c'est comme une petite couche de glace qui s'est formée, ce qui va compliquer la situation tout au long de la journée. C'est cette bise noire, ce vent froid venu du nord-est. Il ramène de la grisaille. Il va accentuer le ressenti et surtout, il fige le froid au sol. Alors, la chaussée est très glissante. Heureusement, la plupart des automobilistes sont tout de même équipés de pneus neige dans la région. Et ce froid, il va durer tout au long de la journée. Quelques flocons, mais c'est anecdotique par rapport à hier. Mais le froid, je vous le disais, il va durer puisque demain, jusqu'à moins 10 degrés est attendu dans le massif du Jura. La vigilance neige-verglas, elle reste en place en tout cas jusqu'à ce soir. Et le grand froid, lui, commence dès 15 heures.
Merci Marie Roux. Avec Simon Pirès, on vous retrouvera tout au long de la matinée. Les services de secours sont mobilisés, appellent à la plus grande prudence, car dans ces conditions, chaque freinage peut devenir un piège. Kevin Drouin, Alice Phillips, Marie Roux et Antoine Fernandez.
C'est la crainte des automobilistes par temps de neige, des routes recouvertes qui cachent parfois une couche de verglas. Dans l'Orne, avec les averses de neige hier soir encore, la route est difficilement praticable. Les véhicules sont immobilisés dans l'attente du salage. Jean-Yves est agent d'entretien des routes.
Ouais Franck, vous continuez la direction de P1, direction Chaumont, d'accord ?
Il sait que la nuit risque d'être longue.
Au moins jusqu'à 8 heures. J'avais un appel avec un collègue du centre de l'Aigle qui me renvoie une troisième saleuse en renfort pour rendre avec la route impeccable.
Les premières chutes de neige en pleine, aussi dans le Doubs. Là encore, il valait mieux être équipé hier pour circuler. Le département est concerné par la loi montagne. En principe donc, tous les véhicules doivent être équipés de pneus hiver depuis le 1er novembre. Mais les retardataires ont saturé le carnet de rendez-vous de ce garage. Prochain créneau.
Eh ben là, on est au 2 décembre.
Beaucoup nous demandent si là, aujourd'hui, on pourrait mettre leurs pneus dans l'urgence, mais malheureusement, comme je disais, on peut pas, on est déjà overbooké.
Les mécaniciens montent les pneus hiver à la chaîne, car en cas de contrôle ou d'accident...
Déjà, d'une, l'assurance peut refuser de prendre en charge les réparations, et la gendarmerie, voilà, si elle arrive sur place et qu'elle voit que vous avez 4 pneus étés... Elle peut vous verbaliser, effectivement.
D'autres chutes de neige sont attendues à très basse altitude toute la journée sur quasiment tout le territoire.
Hier, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a lancé une mise en garde pour tout le week-end. C'est difficile aujourd'hui, ce sera encore plus compliqué ce week-end. On suit, Kevin, avec vous depuis ce matin, les conditions de circulation. Et vous nous signalez un gros point noir déjà.
Oui, sur la Nationale 88, nous sommes dans le département de la Haute-Loire. C'est une nationale importante, vous allez le voir, qui est en rouge. Ici, sur notre carte rouge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire C3. Conditions de circulation extrêmement difficiles sur un niveau qui en comporte 4. Donc ça vous donne en effet une indication des difficultés rencontrées par les automobilistes. On est dans le secteur de Saint-Étienne, l'Ardérolles, de Brive, Charensac, de Chadrac. Sur cette Nationale 88, c'est très très difficile en raison de chutes de neige qui ont été observées durant la nuit. Alors on a quelques webcams, notamment ici. Voilà, fixe pour ceux qui connaissent la région comme Anne. Vous voyez que les chutes de neige,
du lieu, ouais.
C'est un point froid à confirmation en temps réel et c'est un point froid, un point neigeux aussi avec ces flocons qui se multiplient. D'autres axes sont concernés un peu partout en France par les difficultés.
Voilà. On va suivre tout au long de la matinée, effectivement, ces conditions de circulation avec vous, Kevin. L'actualité qui nous emmène aussi ce matin à Rennes, où les enseignants d'une école maternelle sont en grève aujourd'hui, en soutien avec l'un de leurs collègues qui a été menacé de mort par les parents d'une élève.
Oui, cette famille refuse qu'un homme enseigne à leur fille et voulait la faire changer de classe. L'instituteur visé également directeur de cette école, élu en arrêt maladie depuis plus d'un mois. Théo Bassilana, Thomas Errigo, Romain Etouin avec Milan Argelès.
J'ai tendance à faire des pochoirs, à faire des trucs, j'ai proposé mes services.
Dès qu'il a appris les faits, Laurent s'est mobilisé pour soutenir l'enseignant et directeur d'école.
Ça m'a fait peur et ça m'a choqué, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'agir. Faire en sorte que ça ne se reproduise plus et faire au mieux.
Le 10 octobre dernier, un père de famille demande que sa fille scolarisée en maternelle ne soit plus encadrée par un enseignant masculin, mais par une femme. Aucun motif religieux, mais des raisons personnelles sont invoquées. Selon nos informations, il refuse notamment qu'un homme accompagne sa fille aux toilettes. Demande refusée. Le père de famille profère ensuite des menaces de mort à l'encontre du directeur, qui est aujourd'hui en arrêt maladie.
C'est triste pour lui. Franchement, il mérite pas ça.
Je vois pas pourquoi on devrait choisir le sexe de l'enseignant. C'est improbable.
J'espère qu'on sera nombreux pour soutenir notre directeur.
Enseignants, représentants syndicaux et parents d'élèves se rassembleront à 9h. L'équipe éducative appelle de son côté à faire grève dans les écoles du secteur et demande que l'enfant soit scolarisé dans un autre établissement.
Les parents n'ont pas à dire « je veux ci, je veux ça, je veux pas ci ». Et puis demain, dans tel ou tel collège, dire « moi je veux pas telle partie du programme d'histoire ou de je ne sais quoi parce que je pense ci, je pense ça ». Ça, il n'y a pas d'école à la carte.
Le directeur et le rectorat de Rennes ont déposé plainte. Le père de famille a été reçu hier soir par la direction académique.
À l'Assemblée nationale, c'est un nouveau revers pour le gouvernement. Les députés ont approuvé hier la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, assortie d'un blocage des prix contre donc l'avis de Matignon-Dominique.
Oui, et regardez ce que ça peut donner sur vos produits de première nécessité. On a pris trois exemples sur des produits qui bénéficient déjà aujourd'hui d'une TVA à 5,5. La baguette de pain sur une baguette à 1,10€, c'est 6 centimes d'économie. Sur un bidon d'un litre d'huile de tournesol vendu aux alentours de 2,20€, ça fera 11 centimes de TVA, 11 centimes d'économie. Et puis, sur le poulet entier, 1 kilo, si l'on enlève cette TVA, le poulet entier vendu 6,50€ bénéficiera d'une remise de 34 centimes.
C'était une mesure, rappelons-le, qui était défendue par la France Insoumise. Ça a suscité de vifs débats dans l'hémicycle avant d'être adoptée donc de justesse. Sauf que dans les faits, cette mesure a très peu de chances de voir le jour. Explication Hortense Gérard et Mathis Menu.
Toute la soirée, l'hémicycle a vu s'affronter LFI et le RN. Le point de discorde, le blocage des prix en supermarché.
Vous allez laisser les multinationales de la grande distribution faire exploser leurs prix et simplement accroître leurs marges.
Simplement, c'est illégal. Nous ne sommes pas dans un régime soviétique et le gel, le contrôle des prix est illégal.
C'est finalement l'amendement insoumis qui est adopté de justesse.
Pour 70 contre 62, l'Assemblée nationale a adopté.
Des prix bloqués donc, mais surtout, plus de TVA sur les produits de première nécessité. Une déroute pour le gouvernement qui met en garde, ce n'est pas applicable.
Vous ouvrez une porte, mais tant que vous n'avez pas défini la liste des produits, je ne suis pas en capacité de mettre en œuvre ce décret.
LFI revendique malgré tout une avancée pour le pouvoir d'achat. Les consommateurs, eux, ont déjà une idée bien précise des produits dont ils aimeraient voir le prix baisser.
Principalement, le premier qui me vient à l'esprit pour moi, c'est la nourriture, clairement.
Les pâtes, le riz, les pommes de terre.
C'est ce que la plupart utilisent tous les jours, faut au quotidien. Donc c'est une bonne chose s'ils baissent la TVA sur ça.
Rien ne garantit pourtant que la mesure soit appliquée, car la partie recette du projet de loi de finances risque fortement d'être rejetée.
On partira peut-être dans des ordonnances ou une loi spéciale qui consiste à reprendre les dépenses de l'année précédente pour au moins un temps. Donc voilà, tout ça pour ça.
Les députés ont jusqu'à dimanche minuit pour débattre des recettes du budget.
Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi, alors qu'une marche blanche aura lieu demain, les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont tenté hier de défendre leur bilan à Marseille, parlant d'une bataille très très dure contre le narco-banditisme.
Gérald Darmanin et Laurent Nunez, qui dans un entretien à nos confrères de la Provence, donnent ce chiffre édifiant. 5 à 6 milliards d'euros d'argent liquide, voilà ce que génère chaque année le narco-banditisme en France. La menace du narcotrafic est aujourd'hui au moins équivalente à celle du terrorisme en France, a estimé le garde des Sceaux. De son côté, Laurent Nunez s'est engagé à revenir tous les mois à Marseille. 7h10. On a commencé à décorer un petit peu le plateau. La question du jour dans un instant, pourquoi toutes les marques cèdent-elles à la tentation des calendriers de l'Avent? Peut-être parce que nous-mêmes, sommes accro, Charlotte Mériton est venue avec un joli échantillon.
Ouais. Avec pas mal d'originalité. Et puis on viendra avec Emmanuel dans la chronique Écho sur le dernier rapport du Secours catholique qui, comme chaque année, dresse un état des lieux de la pauvreté en France.
Dans dix jours, il sera l'heure d'ouvrir la première case calendrier de l'Avent. Alors on en parle ce matin parce que un sondage, une étude montre qu'un Français sur deux, 54% des Français, en achètent un chaque année, parfois même plusieurs, pour se régaler. Pourquoi sommes-nous à ce point fans des calendriers de l'Avent et surtout pourquoi Toutes les marques, vous allez le voir, toutes les marques s'y mettent. C'est notre question du jour, Charlotte Méritant, avec vous. Pourquoi un tel engouement de la part des marques?
Il y a qu'à regarder nos réactions à tous face à ces calendriers et clairement, on comprend. Le calendrier de l'Avent, c'est vraiment l'exemple de neuromarketing efficace par excellence. Il y a tout dans le calendrier de l'Avent. C'est un rituel qui est rassurant. C'est une gratification immédiate, l'attrait pour la surprise, l'achat plaisir par excellence, l'attente de Noël, etc. Et ça, évidemment, les marques l'ont bien compris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les marques s'y mettent. Il y a des calendriers de l'Avent d'absolument tout. Fromage de producteur, Alix a déjà choisi.
C'est le mien.
Vous avez saucisson industriel, évidemment, stylo, jouets pour adultes. Il y a même hameçon de pêche, celui-là, je ne l'ai pas ramené. Ici, on a vraiment un tout petit échantillon, puisque en tout, il y a plus de 500 références qui existent. C'est 3 fois plus qu'il y a 5 ans.
Mais c'est pas possible.
Je vous ai dit le stylo avec les petits pains d'épices.
Mais attendez, non, mais on n'est pas le 1er décembre. Vous attendez. Elle n'a pas compris, le jeu.
Anne, c'est vraiment l'exemple du nouveau marketing.
Alors dites-nous, parce qu'effectivement, il y a une panoplie incroyable de calendriers l'Avent. Qu'est-ce qui est le plus prisé?
Le numéro 1, je vous ai fait un top 3, le numéro 1, bon, ça reste la star indétrônable, c'est le chocolat qui garde 30% de part de marché. Et d'ailleurs, sur la catégorie chocolat, un calendrier de l'Avent sur 6 en chocolat acheté est de la marque Kinder. Donc, ils sont vraiment large leader. En numéro 2, on a les calendriers beauté. Et en numéro 3, malgré tout, un qui monte de plus en plus, c'est le calendrier saucisson. Il y en a vraiment de plus en plus depuis quelques années.
C'est celui que vous avez là avec...
C'est un exemple parmi d'autres. Celui-là, c'est un industriel, mais il y a même des producteurs
qui font... calendrier
des petits producteurs
qui font des calendriers saucissons.
J'imagine que si les marques s'y mettent, c'est parce que c'est financièrement intéressant pour elles.
Oui. Évidemment, rien que pour la catégorie chocolat, on est sur 100 millions d'euros pour ce marché. Il y en a à tous les prix, évidemment. Alors, ça commence à moins de 10 euros en supermarché, 190 euros pour celui de jouets pour adultes, 70 euros pour le calendrier fromage. Dominique a fait son choix, c'est ça?
Non, je vais regarder. Je peux regarder.
Oui, bien sûr. Alors, il est assez lourd. Je vais essayer de vous le faire passer.
Ça 190 euros, celui-ci.
190 euros. Il y a même des calendriers de l'Avent à 600 euros chez Dior. Celui-là, je n'avais pas les moyens de vous le ramener.
Non, mais il y a carrément des abus.
Oui, et d'ailleurs, pour les marques, c'est vraiment le double jackpot parce que c'est une publicité facile et en plus, ça rapporte. Alors, il y a des abus, c'est sûr. Les calendriers alimentaires, vous les payez au moins 2 fois plus cher que si vous achetiez les produits au détail. Et je vous ai pris un exemple vraiment flagrant, c'est le calendrier Justin Bridoux, il est autour de 30 euros. Ça fait 93 euros le kilo de saucisson, alors que ça coûte une vingtaine d'euros les petits bâtonnets si vous les achetez individuellement.
Vraiment jackpot pour
la case 24, Dominique.
Non, celui-ci, je vais éviter de l'ouvrir.
C'est notre ingénieur du son.
Elle est où la case 24? Des enfants nous regardent.
Calendrier, jouer coquin pour adultes.
La case 24, elle est plus
préférable que le calendrier. En tout cas, les prix sont justifiés par la conception, l'emballage, c'est un petit peu de l'abus, c'est sûr. Ce que les marques savent surtout, c'est que les consommateurs sont prêts à y mettre le prix. Et c'est vrai,
Noël,
on
c'est
sait,
Noël,
voilà, c'est le jeu, on sait qu'on n'en a pas pour notre argent, mais on y retourne chaque année et c'est comme ça. Si vous voulez sortir un peu de ce marketing, de ce tout marketing, faites votre propre calendrier de l'avance, c'est possible, c'est plus économique et plus écologique.
Il faudra qu'on fasse, avant le 1er décembre, un petit tuto calendrier de l'avant maison.
Bien sûr, avec plaisir.
C'est pas mal, on va essayer de faire ça.
On périne des calendriers de l'avant au cadeau de Noël, maintenant. Regardez, vous le savez, le Père Noël a tendance à se montrer généreux, parfois beaucoup trop généreux avec les enfants. Résultat, les cadeaux s'entassent et certains terminent même à la benne.
Mais il existe heureusement le marché de la seconde main qui s'organise et qui prend même de l'ampleur. Beaucoup y trouvent leur compte. Regardez ce sujet dans les Alpes-Maritimes de Benoît Ruiz et Anatole Estos.
Dans cet Emmaüs, Isabelle a trouvé la perle rare qui fera le bonheur de sa petite fille. Une poussette dénichée à un prix cassé, 4 euros contre 25 euros neuf en magasin.
Du moment qu'elle puisse encore servir à d'autres enfants, mais bien sûr, pourquoi on jette? Ça coûte de l'argent à l'achat, ne jetez pas après.
L'an passé sur ce site, près de 3 camions de jouets ont été remis en circulation et à des prix imbattables.
Avec les objets, les jouets de seconde main, d'ordinaire, on est entre 5 et 12 fois moins cher que sur le prix de neuf. Et dans nos clients, il y a des gens qui n'ont pas de sous, mais il y a aussi des gens qui ont des moyens, mais qui préfèrent venir s'équiper à Emmaüs.
Mais avant d'atterrir dans ce magasin solidaire ou dans d'autres lieux de revente, les jouets sont récupérés dans différents espaces de collecte. Comme ici, au cœur de ce centre commercial.
Chaque année, ça représente environ 165 000 jouets qui sont distribués. Donc ça profite à des enfants qui ont besoin. Et si vous ne savez pas trop quoi en faire, quitte à les jeter, autant les ramener chez nous.
Cette collecte nationale est lancée par l'organisme Écomaison, spécialiste du réemploi des objets de notre quotidien. D'après leur sondage, près de 3 Français sur 10 jettent encore leurs jouets à la poubelle.
Tout de suite l'écho avec Emmanuel.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Votre rendez-vous avec Evans, votre partenaire location longue durée. Avancez vers une meilleure mobilité avec Evans.
La chronique écho avec vous Emmanuel, et vous nous dites ce matin que la pauvreté s'intensifie en France et touche des profils de plus en plus variés.
Oui, absolument. Depuis 1995, le Secours catholique ausculte l'évolution de la pauvreté en France à travers les profils des gens qui l'aident au quotidien. Et la 30e édition du rapport qu'il vient de publier montre d'abord que la pauvreté s'aggrave avec un niveau de vie médian de 565 euros par mois. Donc les gens qui vont au Secours catholique ont un revenu moyen de 565 euros par mois. C'est 100 euros de moins qu'il y a 10 ans. Pire, parmi les gens qui sollicitent de l'aide, 1 sur 4 n'a aucune ressource. C'était 1 sur 10 seulement il y a 10 ans. La pauvreté touche de plus en plus les femmes et notamment les mères célibataires, de plus en plus d'immigrés, de plus en plus de ruraux, de plus en plus de gens malades, handicapés ou inaptes au travail. Et surtout, avoir un emploi ne protège plus de la pauvreté, même un emploi en CDI. Conclusions qui sont à peu près les mêmes que celles auxquelles aboutissent les Restos du Cœur.
Et au niveau de l'ensemble des Français, Manuel, oui, on en sait un peu plus sur leurs difficultés financières et sur ce dont ils se privent pour survivre.
Oui, effectivement. Là, le Secours catholique, ce qu'il nous dit, c'est à partir des populations qu'il soit. Mais au niveau de tous les Français, on a un travail récent de l'INSEE qui mesure les privations réelles dont souffrent les Français. Ce qui est beaucoup plus riche d'enseignement que la simple mesure du taux de pauvreté, qui ne veut pas dire grand-chose en fait statistiquement. En 2024, il y avait 8,6 millions de personnes qui vivaient dans un logement ordinaire en situation de privation matérielle ou sociale. Alors c'est quoi la privation matérielle ou sociale ? Eh bien, c'est des gens qui ne sont pas capables de faire face à au moins 5 des 13 grands postes de dépenses recensés par l'INSEE. C'est plus que la moyenne des 10 dernières années.
Et qu'est-ce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer ?
Alors, c'est quoi ces grands postes auxquels les gens n'ont plus forcément les moyens de consacrer des budgets ? D'abord, il y a de plus en plus de Français qui ont des difficultés à faire face à une dépense imprévue de 1000 euros, presque 30% des Français. C'est la possibilité de remplacer des meubles usés ou abîmés, de chauffer correctement son logement. Là, la proportion de gens qui ne peuvent plus se chauffer correctement augmente fortement. On est à presque 12%. C'est deux fois plus qu'en 2014, pardon. S'acheter des vêtements neufs. Alors même si on débat sur les sites chinois bon marché, etc., c'est de plus en plus dur de s'acheter des vêtements neufs, de payer à temps son loyer, son crédit et ses factures, ou de se payer une nouvelle voiture. Il n'y a qu'un poste sur lequel les Français font manifestement des efforts. C'est tout ce qui concerne la possibilité de partir une semaine en vacances. Ouais. Là, il y a un peu plus de Français qui disent qu'ils essayent de pouvoir partir en vacances.
La pauvreté qui s'intensifie en France, donc, avec ce rapport du Secours catholique. Merci Emmanuel. Restez avec nous ce matin. Faites attention en sortant de chez vous. On plonge là dans l'hiver avec les températures qui dégringolent encore un peu. Les chutes de neige ont laissé la place à des plaques de verglas. On fera le point sur vos conditions de circulation dans quelques minutes.
Et puis à 7h40, votre rendez-vous culture avec un chanteur qui a remis au goût du jour l'accordéon. Alix va nous faire découvrir le nouvel album de Claudio Capeo.
Bon début de journée avec BFM Première. Ravi de vous accueillir avec Dominique. La France est ce matin sous un manteau hivernal. Les températures plongent encore. La neige a laissé place à des plaques de verglas. La circulation est difficile sur de nombreuses routes et ce sera pire ce week-end.
À Tourcoing, SOS Médecins dénonce une expédition punitive. Un généraliste violemment agressé après avoir demandé à une patiente de calmer ses enfants. Quelques heures plus tard, le mari est revenu pour la frapper.
Et les députés ont voté le maintien de la taxe sur les yachts. Problème, son rendement est dérisoire. 10 millions d'euros espérés en 2024 et seulement 60 000 encaissés. Alors comment expliquer un tel écart ?
Et puis, votre rendez-vous culture à 7h40 avec l'homme qui a remis au goût du jour l'accordéon. Alix, vous allez nous présenter le dernier album de Claudio Capeo.
La lune est si pâle, vu de
On entre encore un peu plus dans l'hiver ce matin. Les températures qui continuent de chuter. Il y a quand même 27 départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est qui sont en vigilance jaune, grand froid. Et c'est quasiment tout le territoire qui est en vigilance neige-verglas.
Ouais, après les importantes chutes de neige, encore hier soir, regardez ces images. C'était en Normandie. Ben, ce sont surtout les plaques de verglas qui posent problème ce matin. Par endroits, les routes sont de vraies patinoires. Illustration en Haute-Loire où on vous retrouve, Romain Etouin, et où on signale ce matin les premières difficultés.
Eh bien, tout à fait, le premier incident de la matinée est à signaler au niveau de Saint-Austien, sur la route nationale 88, où des camions sont en portefeuille. Circulation très compliquée dans ce secteur, quasiment à l'arrêt. Il faut savoir en effet que la route glisse beaucoup ce matin. Il fait très froid, moins 3 degrés, donc forcément, il y a du verglas. Les déneigeuses sont d'ailleurs à pied d'œuvre depuis ce matin. On en a rencontré deux tout à l'heure. Donc voilà, évidemment, il faut rester très prudent. Éviter de rouler trop vite sur la route pour justement éviter de glisser. On vous le disait, éviter si possible ce secteur de Saint-Austien sur la route nationale 88.
Sérieusement ? Merci beaucoup Romain Etouin. Ce n'est que le début, car le ministre des Transports, Philippe Tabarot, prévient le week-end sera difficile sur les routes périnées.
Ouais, avec des chutes de neige, des pluies verglaçantes qui sont attendues, circulation très compliquée déjà ce matin, et on suit un peu l'évolution de la situation avec vous, Kevin. Où sont les points chauds ?
National 88, on en parlait à l'instant, Saint-Austien, la voici, cette localité. Regardez le rouge, le orange que vous voyez sur notre carte en temps réel Waze, ce sont les difficultés de circulation. Et on a la confirmation donc de ces chutes de neige très importantes ici dans le secteur de Saint-Austien, avec un accident au moins important. Il impliquerait deux poids lourds en portefeuille. Le trafic est totalement interrompu, circulation impossible, communique la direction des routes du Massif central. Attention également plus largement ailleurs en France. Regardez, webcam en temps réel quasiment des cols. Là, on est dans le nord-est du pays, en Alsace. Après les chutes de neige, c'est le verglas maintenant qui pose souci. Donc méfiance, on continue de surveiller les flocons et les plaques de verglas.
Ouais, prudence et bon courage si vous prenez la voiture ce matin. Le ministre avait également conseillé peut-être de limiter ses déplacements hier. Dans ces cas-là, le télétravail est plutôt pratique. On en revient à cette autre actualité, celle qui nous amène à l'Assemblée. Les députés doivent voter d'ici demain midi la recette du budget qui, sans grand suspense, devrait être rejetée. Et ce matin, on voulait vous parler avec Perrine une taxe qui nous a interpellés. Elle concerne les yachts.
L'Assemblée a refusé de la supprimer. Donc vous allez me dire, jusque-là, rien d'étonnant. Sauf qu'on découvre que son rendement est dérisoire. 60 000 euros en 2024, quand elle était censée en rapporter 10 millions. Alors comment expliquer cet écart spectaculaire ? Regardez ce sujet de Benoît Ruiz, Antoine Forestier, Julie Rosaire avec Blandine Dalena.
Dans le port d'Antibes, nous remarquons des yachts avec le drapeau de Malte, des îles Caïmans, des paradis fiscaux donc. Mais aucun drapeau français à l'horizon.
Il n'y en a pas beaucoup, non. C'est que des bateaux étrangers. Hein.
Je pense qu'ils ont dû se domicilier quelque part autre. Ça veut dire que peut-être qu'il y a moins de milliardaires en France, je ne sais pas.
Depuis 2018, les yachts de plus de 30 mètres sous pavillon français sont soumis à une taxe. Ce qui expliquerait pourquoi il ne reste aujourd'hui pas plus de 5 bateaux immatriculés en France.
En fait, il faut bien comprendre une chose. Quand vous taxez trop fort la richesse, qu'est-ce qui se passe ? Ben, en fait, vous la faites fuir.
Cette taxe devait rapporter 10 millions d'euros par an. Mais l'année dernière, le gouvernement n'a récupéré que 60 000 euros. Un amendement a donc été présenté mercredi pour la supprimer, mais le texte a été rejeté.
On demande à tous les Français de faire des efforts. Et ceux qui ont les moyens d'avoir un yacht à leur disposition, on leur laisserait disposer de leur yacht sans mettre en place une fiscalité à l'encontre des plus riches. Ça, c'est pas possible. Donc c'était pour nous un principe de justice élémentaire.
Une courte majorité de députés a rejeté le texte avec 74 voix contre 67.
Selon nos informations, Arthur, le gouvernement se prépare à présenter une loi spéciale avant la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire tout simplement que le gouvernement a intégré l'idée qu'il n'arriverait pas à boucler son budget dans les temps, c'est-à-dire avant le nouvel an, que donc nous allons entamer 2026 sur les bases budgétaires de 2025, autrement dit, avec une reconduction de ce qu'on appelle les crédits et les recettes. Autrement dit, on reconduit les impôts, on reconduit les dépenses, et puis on se donne un trimestre début 2026 pour essayer cette fois d'atterrir sur un budget.
Le budget, ce sera aussi le thème de votre édito tout à l'heure à 7h40. Venons-en à cette scène, une scène Sidérante, sidérante, mais malheureusement loin d'être un cas isolé. Ça se passe à Tourcoing. Un médecin généraliste a été victime d'une expédition punitive, pour reprendre les mots de SOS Médecin.
Il avait demandé à une patiente de calmer ses enfants et quelques heures plus tard, le mari est revenu. Il s'est jeté sur lui. Avant de le frapper, l'agression de trop pour SOS Médecin qui a fermé ses antennes de Roubaix, Tourcoing et Lille jusqu'à demain matin. Adrien Spiteri.
À l'entrée de ce centre médical SOS Médecin de Tourcoing, ce message est affiché. L'établissement restera fermé jusqu'à demain matin. Les professionnels de santé ont décidé de faire grève après l'agression d'un de leurs collègues, des faits qui indignent cette habitante.
Ils sont là pour nous soigner et puis ils sont tapés, c'est honteux.
Mardi matin, une femme se trouve dans cette salle d'attente avec deux enfants. L'un d'eux est bruyant, alors un médecin lui fait savoir à plusieurs reprises. Après avoir été reçue en consultation, cette femme revient dans l'après-midi accompagnée d'un homme qui pousse, puis frappe le docteur.
C'est un comportement totalement invraisemblable, inacceptable et que je condamne fermement. C'est un jeune médecin hein, qui en donne, qui en veut, qui se démène, il travaille et se voit récompensé par ça.
La victime a déposé plainte, l'agresseur présumé a lui été placé en garde à vue. Un acte qui n'étonne pas cette télésecrétaire.
J'ai envie de dire que malheureusement c'est quasiment notre quotidien. Il n'y a plus de dialogue correct avec les patients.
En France, les actes de violence envers les médecins ont augmenté de 26% entre 2023 et 2024.
Des images impressionnantes à vous montrer aussi de la COP30 à Belém au Brésil. Un incendie qui a touché hier une partie du site. Les flammes qui se sont propagées sur un stand. Il y a une partie du toit, vous le voyez, qui a été brûlée. Des milliers de participants ont dû être évacués.
Le feu a été rapidement maîtrisé, mais il a interrompu les débats pendant plusieurs heures alors que les négociations doivent s'achever. Théoriquement ce soir, la cause reste inconnue. Le ministre brésilien évoque peut-être un court-circuit, un téléphone en charge.
Alix, vous nous parliez hier matin de ce tableau de Frida Kahlo vendu aux enchères et comme prévu, il a bien battu un record.
Oui, 54,66 millions de dollars. Le tableau de Frida Kahlo devient donc le tableau le plus cher réalisé par une femme. C'est un autoportrait baptisé Le rêve que l'artiste mexicaine a peint en 1940. Alors on est quand même loin des prix que peuvent atteindre certaines œuvres par des artistes, des peintres masculins. Mais voilà, un nouveau record donc pour Frida Kahlo.
Merci Alix. On n'en attendait pas tant dans les stations de ski. La neige est là. Alors vous l'avez vu, elle était également là sur les routes. Et ce matin, on reviendra avec vous, Kevin, tout à l'heure. C'est compliqué de circuler, mais en montagne, on l'attend davantage, la neige. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à Val Thorens, notamment, plus haute station d'Europe, élue pour la 10e année de suite meilleure station du monde. Et qui c'est qu'on retrouve, regardez, là-bas, à Val Thorens. Alors il n'a pas chaussé les skis, finalement, il a choisi la neige.
Sauf que, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est un terrain de jeu pour tout le monde. Sauf pour Thomas, parce que Thomas, c'est quand même pas le roi des pistes. Donc ce matin, il a abandonné les skis, il tente la luge. Est-ce que vous êtes un petit peu plus à l'aise sur la luge, Thomas ?
La luge, ouais, j'ai une certaine expérience. Normalement, ça va par rapport au ski. Ou quand j'étais adolescent, pour rien ne vous cacher, je finissais une fois sur deux à l'hôpital ou avec un plâtre. Voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas prendre de risques ce matin. Moins 13 degrés quand même ce matin à Val Thorens. Nous avons de la neige, vous voyez ce beau manteau neigeux qui se dépose. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Veille d'ouverture de la station de Val Thorens. Bonjour Chloé. Bon, vous êtes directrice technique de l'ESF. Bon, vous avez compris, j'étais pas très fort en ski. Votre travail, c'est quoi? C'est de remotiver, de remettre sur ski des futurs vacanciers?
Alors, tout à fait. Nous, ce qu'on cherche à faire, avant tout, c'est à enseigner le ski. Et ça va du débutant n'ayant jamais fait de ski à l'expert qui aurait envie d'aller se perfectionner en hors-piste ou simplement en carabine sur piste.
On peut faire que du ski ou on peut faire autre chose avec vous?
Ah, bien sûr qu'on peut faire d'autres choses, on peut faire du snowboard, on a également des activités hors ski à proposer tout au long de la saison.
Et quand on est nul en ski comme moi, on peut quand même s'en sortir ou à chaque fois on se dit non, le ski je sais pas skier, je vais juste manger des raclettes le soir et regarder la neige tomber la journée, mais on peut quand même faire du sport, s'en sortir?
Alors bien sûr qu'on peut s'en sortir et puis d'autant plus si vous prenez un moniteur, en général à la fin de la semaine vous êtes autonome, vous prenez les remontées mécaniques et vous faites vos premiers virages en toute sécurité.
Merci Chloé, vous m'avez dit qu'ici c'était l'espace enfant, c'est ça pour faire de la luge?
Tout à fait, derrière vous, vous avez la place Caron et donc l'espace Luge, et derrière encore le board qui est une belle installation où on a nos événements tout au long de l'hiver.
On teste la luge. Alors, j'ai quand même un petit problème ce matin, c'est qu'on a de la neige quand même plutôt fraîche qui vient de tomber. J'ai peur que ça glisse pas trop et qu'on soit plutôt dans un échec de luge, mais on va quand même tenter. Plus de 300 moniteurs de ski quand même à... Ah oui, c'est quand même pas très pentu, là, mon affaire. Plus de 300 moniteurs de ski à Val Thorens, meilleure station de ski du monde pour la 10e fois cette année. Bon, je m'assois, mais je suis pas sûr de glisser. Ah non, ça glisse pas du tout. Chloé, ça glisse pas, hein, votre affaire.
Je vous l'avais dit, hein. C'est pas le droit de la glisse, Thomas.
Normalement, il faut une pente, Thomas. Il faut quand même une pente pour glisser. C'est quand même le principe de la luge.
Attendez,
il y a la monitrice qui arrive, qui arrive pour vous aider derrière. Voilà, bon, on va vous laisser passer ce petit week-end tranquillement à Val Thorens. Vous l'avez bien mérité, Thomas. Superbes images.
Il faut quand même expliquer à Thomas qu'il faut mettre des gants hein, quand on va au ski. Et le bonnet, on le met sur les oreilles, Thomas.
Et puis pas des baskets. Enfin bref, il a tout faux, Thomas. Merci en tout cas pour ce courage et cette dévotion. Tout de suite, vos chroniques politiques, culture et internationales sur BFM TV.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque.
L'édito politique avec vous, Arthur Berda. Ça y est, on arrive à la fin du chrono. Les députés doivent se prononcer sur le volet recettes du budget là d'ici la fin du week-end. Et vous vous demandez s'ils n'ont pas débattu pendant toutes ces longues journées autour d'un budget imaginaire.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines, vous savez, d'un budget Frankenstein, mais Le Figaro a théorisé ces derniers jours le budget Loch Ness. Tout le monde en parle, tout le monde en a peur, mais personne ne l'a jamais vu, et pour cause, il n'existe probablement pas. Alors, le monstre écossais, j'en sais rien, mais le budget tel que les députés l'ont imaginé, ça, j'en suis à peu près certain. C'est le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, qui a vendu la mèche hier lors d'une réunion au Sénat, je le cite. Dans l'hypothèse où nous n'y arriverions pas, il faudra évidemment que le gouvernement présente un projet de loi spéciale. Alors un projet de loi spéciale traduit en français, ça veut dire que les débats vont probablement se poursuivre bien au-delà du calendrier imparti, au-delà du nouvel an, et que l'année 2026 va commencer sur les bases budgétaires de l'année 2025, c'est-à-dire avec en gros une reconduction des crédits et des impôts à l'identique en attendant l'adoption d'un nouveau budget au premier trimestre 2026 par le vote ou par la force.
Oui, sauf que Sébastien Lecornu avait indiqué qu'il ne voulait ni du 49-3, ni d'ordonnance d'ailleurs.
Vous avez raison, et c'est d'ailleurs cette coquetterie du Premier ministre qui nous plonge dans l'inconnu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le chef du gouvernement s'est lui-même impuissanté pour acheter la non-censure de la gauche, sauf que personne ne l'en remercie, c'est même le contraire. Certains députés socialistes commencent même à le lui reprocher en privé, y compris parmi les très hauts gradés du groupe PS. En fait, tout le monde a bien compris qu'il serait quasiment impossible de trouver une majorité sur ce budget. Et tout le monde s'attend à en avoir la preuve dès ce week-end, vous le disiez Perrine, puisqu'il y a toutes les chances pour que la partie recette du budget soit rejetée à l'unanimité à l'Assemblée. Ce serait une première symbolique, historique évidemment, mais aussi politique. En gros, un séisme dont les secousses se feront inévitablement sentir à Matignon ce week-end.
Il y a quand même une différence entre le mythe du Loch Ness et le mythe du budget. C'est que le Loch Ness, ça rapporte de l'argent.
Vous avez raison. Alors que le budget en coûte beaucoup, surtout celui-là.
Apparemment, ça coince, François. On s'en serait douté. Le plan de paix proposé par Donald Trump au président Zelensky a été reçu difficilement, désagréablement surpris, en tout cas, le président Zelensky et les alliés européens. Et ils le font savoir.
Oui, parce que d'abord, c'est la méthode, comme toujours, qui surprend. Tout le monde savait que l'émissaire de Donald Trump sur la Russie, Steve Witkoff, avait reçu en Floride, pendant plusieurs jours, l'émissaire de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, et de cette rencontre est sorti un plan en 28 points, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au plan en 20 points, vous savez, sur Gaza. Même méthode, même chronologie, court terme, moyen terme, long terme, etc. Et d'ailleurs, c'est Witkoff qui est l'auteur des deux plans. On avait imaginé à ce moment-là une diplomatie de la navette pour que les Ukrainiens donnent leur avis, que les Européens donnent leur avis. Eh bien, pas du tout. Personne n'a été associé à la discussion. Le conseiller de Zelensky lui-même n'a été informé que des grandes lignes et par oral. Et les Européens, prévenus au tout dernier moment qu'il y a allez avoir cette publication. Regardez, le plan, il est là, sous vos yeux. Le Donbass, sous contrôle russe. Les oblasts de Kherson et Zaporijja, gelés sur leur ligne de front. Démilitarisation partielle, en fait, de la moitié de l'armée ukrainienne. La Crimée reconnue russe par les États-Unis. Et pas de garantie de sécurité occidentale avec des troupes, uniquement par le verbe. Donald Trump dit « Je m'engage à protéger ce qui reste de l'Ukraine indépendante », comme si c'était un pays de l'OTAN. Mais on n'en a pas plus. Pour faire court, eh bien oui, toutes les revendications russes ont été prises en compte, et notamment l'idée que tout ce qu'ils ont sous leur contrôle leur revient. Est-ce que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, était au courant? Voici ce qu'il écrivait mercredi, juste avant la publication de ce plan. Une paix durable devra demander aux deux parties de faire des concessions difficiles mais nécessaires. Est-ce que vous voyez une concession faite ici à l'Ukraine? Moi, je n'en vois pas.
Donc autrement dit, pour les Européens, il va falloir une fois de plus repartir de zéro?
C'est un peu l'impression qu'on a lorsqu'on les écoutait hier au sortir de leur réunion à Bruxelles. Ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas apprécié non seulement la méthode, mais regardez même ce que dit Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne. Elle est estonienne. Elle sait ce que c'est que la Russie. Elle l'a sous ses yeux tous les jours. Regardez ce qu'elle dit sur ce plan. Il faudra qu'un plan, quel qu'il soit, ait le soutien de l'Ukraine et des Européens. On n'y est pas. Il faudrait qu'on sorte de cette logique selon laquelle il y a de l'indulgence de Trump pour Poutine, du mépris pour les alliés et une humiliation pour l'Ukraine.
Merci François. La guerre, on va continuer d'en parler après les propos du chef d'état-major avant-hier qui ont beaucoup fait réagir, qui disait qu'il fallait se préparer à sacrifier nos enfants pour protéger le pays. Il en sera question dans le face-à-face. C'est Laurent Neumann aujourd'hui qui recevra Didier François, journaliste défense BFM TV, qui fera le point justement sur toutes ces menaces qui nous entourent.
Petite question autour de la table, non, Kevin et François, vous n'avez pas le droit de jouer parce que vous étiez là pendant les titres, donc ce sera plus pour Arthur. Moi, quel chanteur français a remis au goût du jour l'accordéon?
L'accordéon?
Ouais. L'accordéon.
Ah, Vianney, si j'avais su.
Non, il a participé à The Voice en 2016.
Vianney?
Non, pas du tout.
Vianney, l'accordéon,
sa voix, elle est reconnaissable. Claudio Capeo.
Oui,
quand même, tout de même, 1,5 million d'albums vendus.
Si, je connais. Senza una donna, mais il l'a réinterprété, n'est-ce pas?
Alors, il y a un.
S'il avait su.
C'est une de ses chansons.
Ah, bah, la plus belle.
Et mais là, je vais vous parler de son nouvel album, son cinquième album baptisé Nouveau Souffle. Pourquoi ce titre? Eh bien, Claudio Capeo vient d'avoir 40 ans, une étape ô combien fatidique. On se questionne sur sa vie, ses excès. C'est l'heure du bilan, le bilan amoureux aussi. Et justement, il est beaucoup question. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de sa femme, comme cette chanson Madame. On regarde un extrait.
Si tu veux rester sage, je suis pas né de la dernière pluie, mais du premier orage. J't'aimerai jusqu'au ciel, etc. La lune est si belle vue de là-bas. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai.
Alors évidemment, l'accordéon est au cœur de cet album. Il y a d'ailleurs, et on va l'écouter, une très jolie chanson. C'est la dernière chanson de cet album. Ça s'appelle « Je suis un accordéon ». C'est une ode à cet instrument, un instrument qu'il pratique quand même depuis ses 5 ans. Et Claudio Capeo, regardez, il nous a donné rendez-vous où ça? Eh bien, dans un magasin d'accordéon. Et il a donné une petite leçon privée à Philippe Dufresne et Julie Poncé. Regardez.
Tu l'ouvres, bien sûr, sinon il n'y a pas d'air. T'as un soufflet. Moi, j'appelle ça les petits harmonicas qui est à l'intérieur. Tu vois, tout simplement. Alors, ça ouvre le petit tapet qui va donner le son, en fait, à l'harmonica. Et l'air, tu lui donnes en poussant ou en tirant. Main droite, main gauche. Donc, tu fais tes basses. Et là, tu peux faire ta mélodie. Une vie de rêve sans drame, sans prise de tête. Je suis pas parfait, madame.
Attends,
je me dis trop souvent. Je ne peux pas.
C'est un... Alors, il n'y a pas que de l'accordéon dans cet album. Il y a aussi de très jolies surprises, des surprises plus électro. Et ça, c'est grâce à sa rencontre avec le DJ Moziman. Cette chanson s'appelle Rêve.
Si tu veux rester seul, ne te réveille pas, non, vie rêve.
Cette fois-ci, j'avais envie de partir sur un truc un peu plus fou. J'avais envie de me rajeunir peut-être quelque part, tu vois. J'avais envie de peut-être de plaire à un public qui ne m'écoute pas forcément. En tout cas, c'est le titre que mes enfants préfèrent. C'est quand même assez rigolo, quoi. Donc au moins, il y a un titre qu'ils écouteront de papa.
Alors, il y a une autre chanson quand même, je pense, que ses enfants vont écouter. C'est la chanson Speranza, puisque c'est une chanson qu'il dédie à l'un de ses fils. C'est une très belle chanson, d'ailleurs, je pense que c'est ma préférée. Claudio Capeo, on l'écoute un petit peu, tiens. Claudio Capeo qui retournera l'année prochaine en tournée, une grande tournée.
Je pense que vous êtes convaincu.
Oui, je vous ai convaincu.
Oh, bah, bien sûr, alors pas de mettre un accordéon, mais en tout cas d'écouter Claudio Capeo, bah, oui.
Moi, je vous verrais bien avec un petit accordéon.
C'est vrai qu'on est un peu d'air, lui et moi, non?
Non, vraiment, non. Grand poète. Je vais t'imaginer.
Grand poète, très beau texte aussi.
Restez, on a un fan en plateau. Restez avec nous dans un instant. Attention, chaussée glissante, route glissante. 75 départements sont ce matin en alerte neige et verglas. Il y a des plaques verglaçantes sur beaucoup de routes. On va faire le point dans un instant avec nos reporters sur le terrain et avec Kevin en plateau.
Et puis ne manquez pas notre enquête sur ces villes qui déclarent la guerre aux dépôts sauvages. Vidéosurveillance, amende dissuasive. Alors qu'une étude qui paraît ce matin montre que les Français sont de moins en moins engagés dans la gestion des déchets. Ce sera à suivre dans le grand journal de 8h. Vous restez avec nous. Bon réveil à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, il est bientôt 8h. On est ravis avec Perrine de vous accompagner en ce vendredi matin. Un vendredi glissant, verglaçant même sur les routes de France après la neige tombée hier. Voici venu le verglas, prélude d'un week-end qui s'annonce compliqué. Plusieurs difficultés déjà constatées ce matin dans le centre de la France. Nous serons en Normandie avec Elise Philips dans un instant. Et puis nous rejoindrons également dans le Doubs-Mariroux, opération salage en cours pour rendre la route ce matin un peu plus facile.
Nous irons aussi à Rennes où les enseignants d'une maternelle en grève sont en grève en soutien au directeur de l'école menacé de mort par les parents d'une élève. Ils refusaient qu'un homme enseigne à leur fille pour des raisons personnelles et non religieuses. Nous serons sur place avec Théo Bassilana.
Vidéosurveillance, amende dissuasive, notre enquête sur ces villes qui déclarent la guerre aux dépôts sauvages alors qu'une étude paraît ce matin montre que les Français sont de moins en moins engagés dans la gestion des déchets.
Et puis le face-à-face à 8h30, c'est Didier François, journaliste spécialiste défense de BFM TV qui répondra aux questions de Laurent Neumann après les propos chocs du chef d'état-major des armées qui appelle les Français à se préparer à la guerre.
Prudence sur les routes ce matin. Si vous prenez la voiture pour vous rendre au travail, ça glisse beaucoup après les chutes de neige hier. Eh bien, finalement, le verglas arrive ce matin sur les routes. Le froid a rendu les chaussées verglaçantes. De nombreux départements du nord et de l'est du pays, 76 au total, sont en alerte avec par endroits de véritables patinoires.
Ouais, en Normandie notamment, où la neige est tombée toute la journée, encore tard hier soir. Et ce matin, on se réveille dans un paysage tout en blanc. Elise Philips, vous êtes à Roux-Péroux précisément, qui prend des allures de village de montagne.
Et oui, parce que il a beaucoup neigé pendant toute la nuit. En fait, il y a eu une accalmie hier et puis les averses de neige ont repris en fin de journée et toute la nuit de manière assez soutenue à certains endroits justement, il est tombé jusqu'à 4-5 cm de neige et c'est le cas par exemple ici dans la petite commune de Roux-Péroux. On peut le voir sur ces images de d'Agathe Pichon, ce jardin qui est complètement recouvert d'une couche de neige assez épaisse à certains endroits, les toits des maisons, les parcs, toute la végétation est recouverte encore une fois de cette couche de neige toute blanche ce matin. Et ce matin, il faut faire attention aux routes. J'entendais Dominique parler des routes qui sont assez glissantes à certains endroits parce que les saleuses sont passées toute la nuit. Néanmoins, comme les averses de neige fondues se poursuivent depuis ce matin à certains moments, eh bien, il y a des endroits où ça reste assez glissant. Il faut faire attention. Hier, on a discuté avec des agents du service départemental des routes qui nous ont expliqué qu'ils allaient travailler toute la nuit. On a rediscuté ce matin avec eux et ils nous ont expliqué eh bien, avoir été appelés à de nombreuses reprises pour se rendre sur divers lieux, des interventions qui ont eu lieu pendant toute une partie de la nuit pour rendre ces routes praticables ce matin. Faut savoir que parfois les routes sont tellement verglacées qu'il faut passer entre 3 et 4 fois de la part de la saleuse pour que ce soit à nouveau praticable. Ce matin donc toute une partie du département est recouverte par la neige. On a croisé des habitants qui eh bien, ce matin découvrent ce paysage. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de neige dans leur jardin. Et eh bien, même si la vigilance jaune est terminée depuis 6 heures, il faut donc encore faire attention avant que la neige fonde. Comme les températures sont négatives, ça risque de durer encore un petit peu.
Merci Élise Philips et merci à Agathe Pichon pour ces images, belles images, mais dangereux, vous l'avez dit, la conduite dans ces conditions. Autre secteur difficile ce matin, on va partir dans le Doubs, retrouver Marie Roux. On a vécu avec vous hier matin, Marie, les premiers flocons qui manifestement ont tenu au sol et qui ont transformé certaines chaussées en véritable patinoire. Opération Salage en cours ce matin.
Oui, exactement. On est dans la situation la plus compliquée pour les automobilistes parce que vous l'avez dit, tous les flocons qui sont tombés hier, à peu près 25 cm de neige, se sont finalement glacés, ce qui crée du verglas, des chaussées très glissantes, notamment sur les axes secondaires, pas forcément sur la RN 57, même s'il faut être très prudent, mais sur le petit village. On a croisé plusieurs automobilistes qui ce matin rencontraient des difficultés. Alors forcément, opération salage obligatoire. On est sur le parking d'un supermarché où les clients vont pas tarder à arriver. On est avec Julien. Julien, aujourd'hui, c'est très compliqué pour les clients.
Oui, après, on fait de notre mieux pour leur rendre l'accès le plus facile possible au magasin. Notre seul et unique but, c'est que ce soit facile pour eux de se rendre dans notre magasin.
Et ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est les petites montées, surtout. C'est là où vous allez saler le plus.
Exactement, on va saler le plus dans les montées et également dans la station essence où il y a le plus de fréquentation aussi.
Vous devez donc faire preuve d'ingéniosité. Est-ce que il y a des endroits que vous n'avez pas encore salés, que vous allez ressaler toute la journée comme la neige continue de tomber?
De toute façon, toute la journée, on s'occupe tout le parking. Je ressale tout au long de la journée. La station essence et le quai de livraison pour qu'on soit livré sans aucun souci.
Toutes les heures à peu près?
Toutes les heures, voire les demi-heures selon les tombées.
Merci beaucoup Julien, vous l'aurez compris, ça va être une journée délicate ici dans le Doubs, surtout que le froid s'installe puisqu'il fait entre moins 4 et moins 5 degrés tout au long de la journée. La vigilance neige-verglas, elle va durer au moins jusqu'à minuit ce soir.
Bon, prudence, hein, si vous êtes dans ce secteur. On vous le disait, ça concerne 75 départements en France aujourd'hui. Et puis ce sera pire encore ce week-end de galère en perspective sur les routes. C'est ce qu'a dit le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui a appelé les automobilistes à la plus grande prudence. L'actualité ce matin, elle nous amène aussi en Bretagne, à Rennes, où les enseignants d'une école maternelle sont en grève ce vendredi en soutien avec l'un de leurs collègues qui est menacé de mort par les parents d'une élève.
Ouais, cette famille refuse qu'un homme enseigne à leur fille et voulait la faire changer de classe. Il ne s'agit pas de motifs religieux, mais de motifs personnels. Reste que l'instituteur est en arrêt maladie. Théo Bassilana, on vous retrouve sur place. Il est en arrêt maladie depuis plus d'un mois et ses collègues, aujourd'hui, ont décidé de faire grève en soutien.
Exactement, l'école sera fermée aujourd'hui. On a vu cette banderole qui a été créée par les enseignants eux-mêmes. Et puis ici, ce panneau par les parents d'élèves, parce qu'aujourd'hui, il y aura enseignants et parents d'élèves mobilisés. Bonjour Fabrice Le Restif.
Bonjour.
On parle de menace de mort parce que c'est un homme en tant que représentant des enseignants. Comment on réagit face à ça?
Eh ben, on soutient. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On se mobilise, on laisse pas passer. C'est inacceptable. L'école de la République, c'est pas on choisit. On n'est pas sur une plateforme. On choisit les options. On veut des hommes, on veut des femmes. On ne veut pas de telle couleur. On ne veut pas de telle ou telle chose. On veut pas des gens en situation de handicap. Ça, c'est inacceptable.
Vous me disiez, si aujourd'hui on tolère ce type d'exigence, cela ouvrirait la porte à d'autres dérives.
Oui, les dérives concernant la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, ce sont les grands piliers de la République. Et ça, faut jamais laisser transiger. Faut jamais transiger, faut pas être complaisant vis-à-vis de ça. Et donc, faut rappeler le cadre. J'ai vu que le ministre avait réagi hier, très bien. La rectrice a envoyé à notre collègue directeur d'école un message de soutien hier. Bon, c'est un peu peut-être tardif, mais en tout cas, ça lui fait du bien. Il nous l'a dit hier encore, c'est essentiel.
Merci beaucoup Fabrice. Un rassemblement qui aura lieu en plus de cette grève à 9h, je vous l'ai dit, avec les parents d'élèves et les enseignants en soutien à ce directeur.
Merci Théo Bassilana. L'actualité également aujourd'hui, Perrine, c'est ce nouveau revers pour le gouvernement à l'Assemblée. Les députés ont approuvé hier la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité et un blocage des prix contre l'avis de Matignon.
C'était une mesure qui a été défendue par la France Insoumise et qui a suscité de vifs échanges au sein de l'hémicycle avant d'être adoptée de justesse. Sauf que dans les faits, elle a très peu de chances en réalité de voir le jour. Explication Hortense Gérard et Mathis Menu.
Toute la soirée, l'hémicycle a vu s'affronter LFI et le RN. Le point de discorde, le blocage des prix en supermarché.
Vous allez laisser les multinationales de la grande distribution faire exploser leurs prix et simplement accroître leurs marges.
Simplement, c'est illégal. Nous ne sommes pas dans un régime soviétique et le gel contre les prix est illégal.
C'est finalement l'amendement insoumis qui est adopté de justesse.
pour 70 contre 62, l'Assemblée nationale a adopté.
Des prix bloqués donc, mais surtout, plus de TVA sur les produits de première nécessité. Une déroute pour le gouvernement qui met en garde, ce n'est pas applicable.
Vous ouvrez une porte, mais tant que vous n'avez pas défini la liste des produits, je ne suis pas en capacité de mettre en œuvre ce décret.
LFI revendique malgré tout une avancée pour le pouvoir d'achat. Les consommateurs, eux, ont déjà une idée bien précise des produits dont ils aimeraient voir le prix baisser.
Principalement, le premier qui me vient à l'esprit pour moi, c'est la nourriture, clairement.
Les pâtes, le riz, les pommes de terre.
C'est ce que la plupart utilisent tous les jours, faut au quotidien. Donc c'est une bonne chose s'ils baissent la TVA sur ça.
Rien ne garantit pourtant que la mesure soit appliquée, car la partie recette du projet de loi de finances risque fortement d'être rejetée.
On partira peut-être dans des ordonnances ou une loi spéciale qui consiste à reprendre les dépenses de l'année précédente pour au moins un temps. Donc voilà, tout ça pour ça.
Les députés ont jusqu'à dimanche minuit pour débattre des recettes du budget.
Notre enquête ce matin sur ces villes qui déclarent la guerre aux dépôts sauvages, vidéosurveillance, amendes dissuasives, alors qu'une étude qui paraît ce matin montre que les Français sont de moins en moins engagés dans la gestion des déchets. Notre enquête à suivre dans moins de 2 minutes. À tout de suite.
À la suite de votre grand journal de 8h avec notre enquête ce matin, notre enquête sur un fléau contre lequel les municipalités ont bien du mal à se battre, les dépôts sauvages. Ils impactent à la fois, évidemment, la tranquillité, la qualité de vie, mais aussi l'environnement et la nature.
Et si on vous en parle ce matin, c'est parce qu'une étude vient d'être rendue publique montrant un relâchement des Français en matière de gestion de leurs déchets. Il y a un Français sur 4 qui avouait même récemment avoir été l'auteur d'un dépôt sauvage. Certaines communes, vous allez le voir, ont décidé d'employer du coup les gros moyens pour traquer ceux qui contreviennent à la loi. Léane Delabrière, Laura Dubois, Tanguy Tricoire avec Blandine Dallena.
Depuis sa création en octobre, cette brigade environnement est quotidiennement sur le terrain pour identifier des dépôts sauvages.
Un meuble à chaussures, un frigidaire, un peu de tout.
Le mois dernier, elle en a recensé 150 à Blagnac. Soit la brigade déclare ses dépôts à la métropole de Toulouse, soit elle contacte directement l'auteur du dépôt, quand son nom est identifié, comme ici.
On lui propose d'aller enlever ce qu'il a déposé, sous peine d'amende.
Le mot d'ordre est donc plutôt la tolérance.
On est d'abord dans la pédagogie, parce que le dépôt sauvage est souvent une solution de facilité, parce qu'on ne souhaite pas attendre les jours de ramassage, parce qu'on ne souhaite pas ou qu'on ne peut pas aller à la déchetterie.
La maire de Saint-Brice-sous-Forêt, elle aussi préférait cette approche, qui s'est avérée être un échec. En 2024, 270 tonnes de dépôts sauvages ont été ramassées par les services de la mairie. Elle a donc décidé de prendre les auteurs sur le fait, en équipant la ville de caméras.
Ce sont les caméras Visia, dotées d'intelligence artificielle, qui donc flashent, qui repèrent quand il y a un dépôt sauvage, quelque chose d'inhabituel, et qui flash la plaque d'immatriculation. Et en termes de chiffres, sur 31 véhicules identifiés, on a pu mettre des amendes sur 26.
À l'origine de ces caméras, cette start-up qui a déjà équipé plus de 200 collectivités françaises.
On a détecté 110 000 dépôts sauvages de déchets sur les 12 derniers mois et on a une baisse qui va jusqu'à 90% par point dans les collectivités qu'on équipe de plus d'un an.
Selon une étude IFOP publiée en mai dernier, un Français sur 4 avoue être auteur de dépôts sauvages. Ils s'exposent à une amende allant de 135 à 1500 euros.
La neige qui a laissé la place au verglas ce matin avec des routes extrêmement glissantes. Depuis le début de la matinée, on fait le point sur les conditions de circulation avec vous, Kevin, et des difficultés encore et toujours à cette heure-ci.
Bah oui, évidemment, là vous voyez les flocons de neige qui sont tombés encore jusque tard hier soir, cette nuit à Argentan dans le département de l'Orne, au cœur du Perche, avec en effet des hauteurs et des difficultés liées aussi au froid, puisque les températures sont repassées sous 0 degré et on le sait, évidemment, ça génère des plaques de verglas. Autre difficulté également en temps réel, ici c'est une image en direct de l'Est de Paris, autoroute A4, la barrière de péage de Coutevroux. Alors, il n'y a pas beaucoup de neige, on est d'accord. Oui, mais là, vous avez une température négative. Donc, c'est une véritable patinoire. C'est évidemment quelque chose qu'il faudra surveiller dans les prochaines minutes, puisque la petite perturbation, la petite averse qui traverse la Seine-et-Marne continue son chemin en direction du sud du département. Donc là, quand on approche la barrière de péage, vraiment, on imagine un œuf sous sa pédale pour freiner. On évite les coups de volant, parce qu'encore une fois, voilà, la situation peut être dangereuse, on le sait, en Ile-de-France.
C'est même pas un centimètre de neige qui suffit pour provoquer parfois des difficultés. La pagaille, ouais. Et vous avez un petit saupoudrage, en effet, ça
peut être... Il a averti d'ailleurs un ministre des Transports, Philippe Tabarot, pour ce week-end.
Ce week-end,
très difficile.
Oui, parce que la neige, oui, mais peut-être des pluies verglaçantes. Et ça, c'est encore pire que la neige, parce qu'il faut imaginer des pluies qui tombent. Au contact du sol, ça gêne instantanément. Et là, vous avez beau rouler prudemment,
vous pouvez rien faire.
Vous partez dans le fossé. Donc, à suivre, évidemment, dans nos prochains bulletins.
Ouais, mais prudence, donc, si vous vous rendez au travail ce matin et que vous devez prendre la voiture. On en vient aux suites de cette polémique, Perrine, après les propos avant-hier, souvenez-vous, devant les maires de France, du chef d'état-major des armées qui avait déclaré que les Français devaient se préparer à la guerre et qu'ils devaient accepter aussi, je le cite, de sacrifier leurs enfants.
Cette phrase, on l'a entendue hier tout au long de la journée, elle a déclenché de vives critiques de la part de nombreux responsables politiques. La ministre des Armées a défendu hier le chef d'état-major pleinement légitime, c'est ce qu'a dit Catherine Vautrin, à s'exprimer sur les menaces pesant sur le pays.
Alors, qu'en pensent les Français, eux ? Sont-ils prêts à se sacrifier, à sacrifier leurs enfants ? Eh bien, la question leur a été posée hier au cours du forum BFM TV. Réaction rassemblée par Julien Doucet et Mathis Menu.
Lorsqu'on vous pose la question...
Qui a été choqué par ces propos-là ?
De nombreuses voix s'élèvent pour s'offusquer des déclarations du chef d'état-major des armées.
Pourquoi choquer, Steve ?
Parce que j'ai des enfants, tout simplement. Pour moi, c'est un choc dans le sens où je pense qu'on n'est pas prêt... Enfin, il faut l'avoir vécu, en fait, de perdre des gens autour de soi. Et je peux vous garantir que je l'ai vécu. C'est pas facile tous les jours.
Alors que la polémique enflamme le débat public, certains dénoncent une volonté d'inquiéter la population.
Au moment où monsieur notre président de la République, Emmanuel Macron, est le plus bas dans ses sondages, qu'est-ce qu'il utilise encore ? La peur. Nous sommes en guerre.
Et en plus de tout, deux jours après, on nous parle d'un kit de survie dans lequel il y a quoi ? Des petits pois, une bouteille, mais c'est ridicule.
Difficile d'accorder la priorité à la menace russe, alors que la France connaît également de nombreux problèmes nationaux.
Est-ce qu'il entend quand même qu'on aimerait que ce ton martial serve aussi pour protéger l'intérieur des frontières, pas seulement que l'extérieur.
Un forum qui reflète à nouveau l'état d'esprit divisé des Français. Selon un sondage IFOP de septembre dernier, 53% s'affichent contre l'envoi de troupes au sol.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Votre rendez-vous avec Evans, votre partenaire location longue durée. Avancez vers une meilleure mobilité avec Evans.
Emmanuel, on va revenir avec vous ce matin sur ce rapport annuel rendu par le Secours catholique sur la pauvreté qui s'intensifie et qui touche désormais en France des profils de plus en plus variés.
Oui, depuis 1995, le Secours catholique ausculte l'évolution de la pauvreté en France à travers les profils des gens qui l'aident. Et donc, la 30e édition du rapport qu'il vient de publier montre d'abord que la pauvreté s'aggrave. Le niveau de vie médian de ceux qui viennent taper à la porte du Secours catholique est de 565 euros par mois. C'est 100 euros de moins qu'il y a 10 ans. Pire, une personne sur quatre n'a absolument aucune ressource. C'était une sur 10 seulement il y a 10 ans. La pauvreté touche aussi des profils de plus en plus variés, les femmes, notamment les mères célibataires, de plus en plus d'immigrés, de plus en plus de ruraux aussi, de plus en plus de gens malades, handicapés ou inaptes au travail, et surtout, avoir un emploi ne protège plus de la pauvreté, même quand c'est un CDI.
Et au niveau de l'ensemble des Français, on en apprend plus aussi sur leurs difficultés financières et sur ce dont ils se privent.
Oui, effectivement. Et ça, c'est un travail de l'INSEE qui nous le dit, et là, qui concerne effectivement la totalité des Français. C'est un travail intéressant parce qu'il est beaucoup plus riche d'enseignement que le simple calcul du taux de pauvreté, puisque je vous rappelle que comme c'est calculé par rapport au revenu médian, le taux de pauvreté, même dans les pays où il n'y a que des riches, vous aurez toujours des gens qui seront en dessous de ce seuil de pauvreté. Et là, l'INSEE, eh bien, elle nous dit qu'il y a 8,6 millions de personnes qui vivent dans un logement ordinaire, qui sont en situation de privation matérielle et sociale. Alors, c'est quoi la situation de privation matérielle et sociale ? Eh bien, c'est ne pas être capable de faire face à au moins 5 des 13 grands postes de dépenses que recense l'INSEE, c'est plus qu'au cours des 10 dernières années.
Qu'est-ce qu'ils n'ont plus moyen de se payer?
Alors justement, ces 13 grands postes de dépenses, c'est quoi? Bah, c'est par exemple être capable de faire face à une dépense imprévue de 1000 euros. Là, vous avez presque 30% des Français qui ne peuvent plus faire face à une dépense imprévue de 1000 euros. De plus en plus de Français ne peuvent pas remplacer des meubles usés ou abîmés, chauffer correctement leur logement. Là, c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans sur la facture de chauffage. Ils ne peuvent pas s'acheter de vêtements neufs, payer à temps leur loyer, leur crédit et leur facture ou se payer une nouvelle voiture. Il n'y a qu'un poste sur lequel les Français vraiment font beaucoup d'efforts pour pouvoir continuer à se l'offrir, c'est des vacances. Et donc, une semaine de vacances, les Français sont prêts à sacrifier beaucoup pour pouvoir quand même partir.
S'évader peut-être pour rester, espérer oublier un peu les difficultés du quotidien.
Et l'INSEE qui montrait aussi dans ce rapport effectivement que les inégalités se creusent entre les hauts revenus et les plus bas.